Allô les amis, heureux de vous retrouver en ce vendredi.
Il fut une époque
Où c'était la dernière presse de la semaine, mais on est des foufous ici. Et on a rajouté, il y a quelques semaines, une revue de presse le samedi. Le samedi, c'est, et on en a bien besoin, vu l'époque, la revue de presse des bonnes nouvelles qu'on a appelée, jeu de mots incroyable, le Sam dit des bonnes nouvelles. Parce que c'est le samedi que je m'appelle Sam. Voilà. Incroyable. Marilyn, je suis heureuse que les podcasts existent. Que dis-tu, Marilyn? Je dois vous laisser dans pas longtemps. Eh bien, effectivement, tu as raison. Tout ça, c'est en podcast aussi à partir de 15-16 heures. Tous les jours, en podcast audio, les Deezer, les Spotify, tu connais, les Apple Podcasts, etc. Il fut un temps, il y avait une revue de presse le dimanche. Il fut un temps où il y avait une revue de presse le dimanche. Écrit MMG. Fake news. Voilà. C'est ça le problème de notre époque. C'est que MMG, c'est une vanne. Hein. N'importe qui raconte n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait une fois une revue de presse, un dimanche, peut-être deux fois en 5 ans. Édition spéciale, d'ailleurs, c'était sur le Venezuela. Et il fut une fois où il y avait des revues de presse le dimanche. Ok. C'est fou ça, hein. Tu leur donnes ça, hein. Ils te prennent, c'est pas le bras, ils te prennent le corps. Le corps, ils te prennent. Donc demain, revue de presse des bonnes nouvelles. Et puis samedi, il y aura ça, c'est dinguerie ça. Non, attends, il est où le sample d'ailleurs? Ah, yeah. Mais ce sera pas l'après-midi. Non, parce que l'après-midi, les enfants ont des anniversaires. Donc c'est demain après-midi, c'est birthday partout. Et donc quoi? Et donc la revue de presse des bonnes nouvelles, ce sera samedi matin. Ce sera samedi matin. Voilà. Voilà. Quoi? Yveline dit bonjour tout le monde, soyez pipou entre vous, n'hésitez pas à partager des fake news ou pas. Hein, quoi? Mais non! Il y a une chanson qui dit donne-moi ton corps, baby, pourtant. Donne-moi ton corps, baby, ton corps. Nanana. Tu le vas offrir quoi aux enfants pour leur année? Ils vont dire rien. Non, ils vont à des anniversaires d'autres enfants. Alors, ils ont acheté des petits cadeaux, mais c'est pas les miens. Ça, pas mes enfants, moi. Pas ceux-là. Enfin, d'autres. Voilà. Salut, Kemesto. Non, 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 oubliez. Non, c'est fake news. Il n'y avait jamais eu de revue de presse le dimanche. Exceptionnel. Arrêtez, arrêtez avec ça. Arrêtez. Arrêtez. Stop. C'est qui le beau gosse à côté d'Ava? Voilà le visuel. Voilà. Voilà. Ça c'est le visuel officiel. Voilà. Dimanche soir, 20 h, le retour de Samplay. Soirée de fou. Soirée de fou. Incroyable. Je dis à Ava, mon ami Ava. Ava, il faut que tu viennes dans Samplay. Oui, bah finalement, Sugar, j'ai changé d'avis. Viens me faire découvrir un jeu vidéo. Pensez pour les voisins, dit MMG, effectivement. Et Ava m'a dit, attends, ça me plaît, mais ça va carrément plaire, ouais. On va pas jouer à un jeu vidéo, on va mixer, on va mettre un son de fou, quoi. Voilà. Est-ce que tu as fait tes petits achats de fumigène et tout? J'ai demandé à Joe de me trouver des fumigènes et des lumières. On verra si l'ambiance. Oh, ça me platine. Oh. Ça fait un peu tir sur mon doigt. Mais non, pas du tout. Arrêtez. Et donc, on verra si l'ambiance est au rendez-vous, on verra si l'ambiance dans ce studio à quelques mètres de moi dimanche soir ressemblera à ce visuel. Voilà, on ne te voit plus. Non, je suis derrière. Je suis là. Ouhou. Voilà. En tout cas, ça va être rigolo. Par contre, j'ai loué un. Je sais pas comment ça s'appelle, moi. Une table de mixage, je sais pas quoi. Le truc comme ça, hein. Ça prend. C'est installé déjà là. Ça prend la table. Hein. Voilà. On sera debout, on ne sera pas assis. Hein. On dit comment des platines. Bon, ça va, oui, un DJ avec un casque, avec micro équipé. Bah, c'est ce qu'on aura, baby, hein, de toute façon. Hein. Dimanche. Ah, alors oui. Alors, en ces temps de ré. C'est quoi les mots à la mode, là? De vérité. Vous savez, alternative. En ces temps de vérité alternative et autres délires. Non, ça c'est un vrai visuel, parce que dimanche on aura ces casques-là, parce qu'on vous parlera. Les voisins, bon chance. Ah oui, ça, je peux dire qu'ils vont prendre cher. Ça, c'est sûr. Et mais je vais leur mettre un petit mot. Hein, vous savez, les petits mots comme ils mettent les jeunes dans les immeubles. Voilà. Dimanche soir, j'ai le plaisir d'organiser mon anniversaire à la maison. Voilà. Voilà. il y aura peut-être un peu de musique. Voilà. Nous veillerons à ce que le volume reste acceptable. Les voisins, ils vont pas comprendre. Ils vont venir taper à la porte. Parce que dimanche soir, en plus, alors que tu veux te reposer pour le lundi, il y aura, l'immeuble va vibrer, hein, de beats, de rythme. Et on va ouvrir la porte et il y aura deux personnes dans l'appart. Voilà. Enfin, trois avec Joe à la réalisation. Hop, 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 hop. Voilà la teuf. La teuf à trois. Les voisins disent, mais il est malade le vieux là. Il est malade le vieux. Tu as invité Brigitte Macron et Didier Deschamps à Skip, ils sont devenus DJ. Non mais je crois que c'est, je me demande si c'est pas MMG sur Twitter qui a répondu à mon post sur X avec ce clip où on voit effectivement Didier Deschamps mixé avec Madame Macron. C'est toi MMG hein, j'ai ri, je connaissais pas, j'avais pas la ref. Ah. J'ai perdu mes cax. Soirée platine ou platiste? Joli. Les deux, mon général. Vérité alternative, après tout. Hein. La terre est peut-être plate. Hein. Vous allez faire la chocheux à deux. La chocheux. La chenille, peut-être. Oh. Oh, t'imagines la pauvre. Imagine la pauvre Ava dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action. Portée par le rythme, portée par le beat, eh bien, je démarre une chenille. Voilà. Tin, 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 tin. La pauvre Ava. Le moment de gênance. Je savais qu'il fallait pas que je vienne chez l'autre, là. Tu vas mixer à ton décanard. Je sais pas ce qu'on va mixer. Ava m'a demandé mes goûts en matière de musique pour préparer un petit peu cette soirée. Le problème, c'est que moi, je suis très... Vous voulez que je vous dise ce que je lui ai dit? La pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Bonjour, j'ai vu le clip. Tu t'es fait Wi-Fi. Ah ouais, c'était drôle. Très sympa. C'est la chenille qui redémarre. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Ava. Alors, où est-ce que je lui ai mis ça? Mais j'ai écrit à quelqu'un d'autre ou pas? Ou alors je lui ai écrit sur Insta? Ah, je lui ai rien écrit là. Tu lui as dit Crazy Frog et Cray Brave. Merde. Je lui ai écrit où? Ava. Bah non, je l'ai pas envoyé sur Insta. Par mail alors? Merde. Je n'ai jamais répondu. Mais à qui j'ai envoyé ça? Ava. Merde. Merde. Photo Ava. Merde. Mais je l'ai jamais... À qui j'ai envoyé ça? Ava. Mais merde. Ah si! Putain, il fallait remonter de... Ok. Mes goûts. Elle m'a demandé, mais tes sons, Samuel. Je dis, bah, mes sons, ça va bien. J'aurai mon petit appareil, comme d'habitude, mon sonotone, là, je mettrai plus fort. Non, pas tes sons, pas les sons que tu entends, les sons que tu écoutes. Hein? Ah, les acouphènes. Non, là, les morceaux de musique. Ah, alors je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, non, pas Francky Vincent. Je lui ai dit... je ne sais pas si cela s'inscrit dans ce que tu cherches, je fais toujours des phrases moi. Je suis très rock, mon groupe préféré, Foo Fighters, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Mais aussi dans le désordre, Smashing Pumpkins, Radiohead, Nirvana, Soundgarden, Stereophonics, Green Day, la pauvre. V'là l'électro quoi. En rap, des trucs de vieux, Notorious B.I.G., Cypress Hill, Public Enemy, Tupac, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Rien. En pop rock, Talk Talk, Toto, Police, Zedjoun, Pavarotti, 21 Pilots, Tears for Fears, Chris Isaak. elle ne peut rien faire. Elle a pas commenté d'ailleurs. Elle a pas répondu. Hein. Ah oui, c'est du classique. Oui. Alors le Sim Guitar dit t'écoutes beaucoup de classiques, ça fait plaisir. C'est une façon élégante de dire que j'écoute des trucs d'avant, quoi. Pavarotti, Zed Youn Pavarotti. C'est un chanteur français. C'est pas Pavarotti le ténor. C'est Zed Youn Pavarotti. C'est pas Pavarotti. C'est un artiste français que j'adore. Je l'avais reçu ici d'ailleurs. J'avais fait une rencontre Étienne. Je suis très fan de ce garçon. Mais si elle peut faire un truc avec ça. Ah ouais, vous êtes sûr? Pauvre Ava, pauvre Ava, pauvre Ava. Mais en tout cas, on a mis les petits plats dans les grands. Hein. On a vraiment loué avec Joe des platines de fou là. Et puis on va voir s'il a trouvé le matos pour faire la petite fête là. Ça va être vraiment sympa. J'ai vu les Foo Fighters en concert à la fin des années 2000, c'était top. T'as bien de la chance. Bah, Marvel, je les ai jamais vus en concert, moi. Bon, bah voilà. Voilà pour le programme de dimanche. Demain matin, la rue de presse des bonnes nouvelles, le samedi des bonnes nouvelles. Ce matin, la rue de presse. Et ce soir, qu'est-ce qu'on a ce soir? Ce soir, on a, bien sûr, ce soir, cet après-midi à 14h, un stream incroyable, une super production au Grand Palais. Oui, le Grand Palais, ce bâtiment, cette verrière incroyable à Paris, là, qui accueille pendant 3 jours, c'est la dernière aujourd'hui, une exposition assez intéressante, très intéressante, sur les 200 ans du Figaro, puisque c'est le quotidien français le plus ancien. Et ils ont fait une belle expo en vrai, une magnifique frise qui couvre 200 années d'histoire du Figaro et du coup 200 années d'histoire du pays. Donc ça commence en 1000. On est en quelle année là? 2026, donc 1826. Au début, c'était un journal littéraire qui sortait une fois à la semaine, etc. Après, c'est devenu un quotidien. Puis après, on passe par l'affaire Dreyfus, par la Première Guerre mondiale, par l'assassinat à une époque du directeur de Figaro, par la femme d'un ministre qui était le ministre des Finances, c'était Caillaux, je crois. Et assassiné par c'était le directeur de Figaro, s'appelait Caillaux. Oh, je sais plus. Par la femme d'un ministre, parce qu'elle n'était pas contente des articles qu'elle lisait sur son mari. Et puis la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'ère moderne et tout. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Et on a 8 journalistes du Figaro. Et parmi les invités, quoi que je dis une bêtise, parce que parmi les invités, il y a une historienne, spécialiste dans l'histoire de la presse. Et c'est elle qui a construit cette exposition. Voilà. Mais sinon, c'est 7 journalistes du Figaro avec lesquels on va parler du Figaro, mais pas seulement. De journalisme. Est-ce que ça parlera du Gorafi? Ouais, en vrai, ouais. On peut poser une question sur le Gorafi, ouais. Oui, c'est ça. Elle avait pas aimé la ligne éditoriale contre son mari. Elle lui a vidé un revolver sur la gueule. Ouais. Pas l'historienne, hein. La dame qui avait tué le directeur du Figaro. Greg Fox News, j'y suis allé hier à l'exposition. Je vous le conseille. C'est bien produit. Il y a des tote bags. Ok. Je suis même interviewé par les étudiantes en journalisme qui faisaient un sujet pour leur prof. Et non, en vrai, l'expo est cool, ouais. Et donc, ça va être sympa. 14h, 16h30. Voilà. Gaming ce week-end? Ouais, ce soir. Ah oui. Hein, parce qu'on a une bonne semaine de stream, mais du coup, ça n'a pas beaucoup streamé du gaming cette semaine. Donc, je sais pas, peut-être... Peut-être du Valo, peut-être du. Comment il s'appelle le gars musclé là? Tu sais, le gars qui est musclé là, qui a un demi-dieu là. Non, pas Sam. Oui, Kratos. Kratos. Oui, voilà, God of War. Voilà. C'est ça. Non, pas Thibaut InShape. Donc God of War peut-être. Et Skyrim peut-être aussi, c'est peut-être la reprise de Skyrim ce soir. En tout cas, Skyrim c'est pas arrêté, j'y fenouille. Hein. Voilà. Je sais jamais si je dois continuer les jeux, relancer d'anciens jeux, découvrir de nouveaux jeux, il y a tellement de tentations. Alderiat, bonne réponse. Tu as vu qu'il va y avoir une série God of War sur Prime Video? Ouais, c'est moi qui joue Kratos. Par contre, il va falloir que je prenne un petit peu de la prot, hein. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais. Donc voilà, ça c'est ce soir. Ouh, ce soir. Bah oui, mais demain matin, j'ai ma revue de presse. Ouais, j'ai vu. Je vois que tu. Je crois que tu vois Ava bientôt, dimanche. Néo, néo, néo. Je recommande son after avec Freddy Gladieux, deux de mes personnes d'internet préférées. C'est les vidéos qu'elle fait sur YouTube, ça va, non? On en parlera avec elle. Salut, Clama Coquine. Salut à Sugar que j'ai vu hier à Média en scène à la Maison de la Radio qui est venu me voir dans le public. Trop sympa pour notre stream en direct de la Maison de la Radio. Et quand te mets-tu au jeu de rôle? Mais je suis un jeu de rôle, feu de bœuf. Je suis un personnage. Hein. Je suis un PNJ, moi. Je suis un personnage. Voilà. Tout ça n'est qu'un rôle de composition, bien sûr. Hein, les habitués savent que ma vraie vie est plutôt du côté obscur, du côté, pour dire les choses, du côté sombre de l'humanité. Pas parler de criminalité, mais bon. Mais voilà, enfin, tout ça n'est qu'une couverture, vous l'avez compris, hein. Les activités médiatiques, la radio, la télé, l'information, tout ça, évidemment, c'est une couverture. Un plaid, même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Les habitués savent que tu es chaotique et mauvais, bien sûr, feu de bœuf. Oh, il y a Joe, il devait venir à 11h. Alors, de deux choses l'une, ou c'est Joe qui arrive en avance, ou c'est un cambrioleur, ou je me fais swatter. Parce que la porte vient de s'ouvrir. Est-ce que c'est l'ICE, est-ce que c'est la police de l'immigration américaine qui vient me renvoyer au Japon? Ne tirez pas, je suis pas. Tôt trop tard, je suis mort. T'es en avance? Dans l'entrée, tu as les deux boîtiers 4G, les deux batteries.
C'est pas les bonnes batteries. Faut les grosses.
Ah, mais elles sont pas chargées celles-là.
Bah, il faut que je m'en occupe.
Ça va être juste.
Bah, il faut
Ah, c'est celles-là que tu voulais?
que... Ouais,
Tu vois même pas où, je sais pas où elles sont. Tu les as pas vus ce matin hier en tout déménageant? J'ai aucune idée où elles sont. Bon les gars, il y a une urgence, Joe a passé batterie. Quoi.
Ah ouais, bah c'est FBI, j'ai aucune idée où elles sont. Alors, non, elles sont là, mais à mon avis, elles sont pas chargées. Aucune idée.
Oh, elles se déchargent pas vite, hein, tu sais.
Ah, mais surtout, je vois aucune idée où elles sont, Joe.
Ah ouais?
Ah, aucune idée, hein.
Ah non.
Ah bah si, ah bah ouais, mais.
Tiens, il y en a une là. Déjà.
Ah bah l'auto va être là aussi. Alors. Regarde, ouais, parce que le problème, c'est que ça met 2 jours à charger ça.
Ouais, mais j'ai besoin de 20%, tu sais,
Ah non, mais elles sont forcément à zéro là.
Tu vois?
Et celle-là? Ah bah l'autre, elle est là.
Ah ouais, elle est à zéro.
Elle est à zéro.
Eh ben, je vais les charger.
Ouais. Ah, tu vas les charger où?
Là, dans le. De toute façon, j'ai 1 heure et demie. Hein.
Tu vas les charger un peu, ouais. Il faudrait
ouais.
trouver l'autre, quoi.
Attends, je vais commencer avec celle-là. Je vais poser mon sac. Elle est là. Elle est là,
regarde. Tu la vois
là? Là.
Oh, ouais, elles sont là.
Trop bien. Bon, bah, vas-y, je les charge.
Tu trouves un chargeur spécial?
J'ai les chargeurs du backpack.
Sinon, je.
Bah, si t'as les bons, je prends, mais sinon, je pense que le backpack, c'est OK.
Normalement, tu as.
Le câble avec, là, non, toujours. Ouais. Bah, tu me sauves, là, c'est trop bien.
Voilà. Voilà.
Bah, j'ai 3 backpacks.
Bon,
backpack.
Bon, je retourne à mes.
J'ai 3 backpacks, c'est bon.
Ah, c'était pas les bonnes batteries. Donc, et sinon, t'as les bras magiques aussi, hein? Ouais. Bah laisse-moi la poussette.
Oui, je prends tout le reste.
Laisse-moi la. Les gens un peu sur le podcast. Non, le podcast il commence à partir du sommaire au charou, t'inquiète. Voilà. Donc du coup, t'as tout?
Ouais, c'est bon.
De toute façon, d'ici 14h, je pense que les batteries, t'as le temps de les charger.
Oui.
Au pire, tu me les laisses à charger, je te les amène, mais je pense que t'en auras besoin avant. Parce... Moi, je vais débarquer à 13h, je pense. Ok? Merci, Joe. Donc voilà, donc c'était pas le SWAT, c'était pas la police. Ça n'était pas un cambrioleur et ce n'est pas l'ICE non plus, qui est bien occupé à faire des bêtises aux States. C'était Joe qui en avance. La commu demandait si on avait tout pour dimanche soir, les feux d'artifice, les fumigènes, les stroboscopes, les spots rouges et verts.
Tu sais que genre, je crois que t'es pas, même toi, t'es pas prêt.
T'as?
J'ai tout.
Ah, c'est bon, t'as trouvé de la loque?
Non, mais c'est genre juste, t'es pas prêt.
Il y a des fumigènes?
T'es pas prêt.
Non.
C'est les Azores.
T'as du matos? Ça va être
bien. En fait, je pense que tu t'attends pas à ça.
Ah, Joe me dit t'es pas prêt. Joe me dit t'es pas prêt. Y a des danseurs?
Non.
Oh, attends, hé! Et si on engageait une compagnie de danse?
Tu veux que j'appelle
J'ai des contacts. Moi, je connais des gens qui peuvent venir, des danseurs pros, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va mettre les gens là, quoi?
Tu sais que j'ai fait le plan, j'ai fait les plans cam hier en mettant le plan qu'on. En vrai, c'est incroyable.
Bah, tu sais que je peux faire venir des danseurs pros. Hein.
Mais c'est ton live, si tu veux faire venir des danseurs.
Ouais, mais bon, ça va faire bizarre. La pièce, elle fait 20 mètres carrés.
Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu dis, c'est que c'est le bordel, tu vois.
Je sais pas. Ça pourrait donner, tu crois? Mais t'invites 100 abonnés, mais moi je veux bien inviter des viewers, mais vous allez être gênés. Qu'est-ce que vous allez. Les gars, je vous dis, venez danser et tout. Vous voulez vraiment danser en live? Je peux avoir Bruel, je me rappelle. C'était dans La vérité, si je mens, ça. Je peux avoir Patrick Bruel pour le mariage. Monsieur, attends. Quand il dit mon père au rabbin, hein, mon père, je peux avoir Patrick Bruel pour le mariage. Quand il dit ça au rabbin. C'était génial ça. Ça va être giga cringe. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de venir vous faire danser en vrai. Comment ça, Étoile? Vous voulez que Rayou vienne danser? Oh, j'invite. Hey, je demande à Étoile de venir danser en solo pendant 3 heures. Tu sais? En vrai, ce serait une masterclass quoi. Ah, c'était Goldman qui dit c'était pas. Ah oui, c'est pas Bruel. Il dit je peux avoir Goldman. Vous avez raison. C'est pas ça qu'il dit au rabbin. Ouais. Étoile, il dira oui? Lesquels?
Des chargeurs de batterie externe.
Attends, je vais t'aider. Ça, je sais.
Oui, c'est. Pour le coup, c'est là. Normalement, ça, c'est là. On va les ramener, bien sûr, là, mais.
Ah, regarde. T'as vu?
Bah oui. C'est ça, d'être maniaque.
C'est bien d'être maniaque.
Ah, et j'ai le deuxième. Non, et normalement, il y a ça. Et voilà.
C'est le bordel ici, mais je sais à peu près où sont les choses, quoi. Voilà. Étoile vient de finir à 6h du mat pour Poké Rayou. Ah oui, ça, je n'ai aucune idée de ce que c'était, ça. Salut Mathieu. J'ai vu des trucs, mais je ne sais pas ce que c'était.
C'est Pokémon sur Minecraft, c'est trop bien.
Ouais, mais je... Personne ne m'a vraiment expliqué, quoi.
C'est le meilleur jeu au monde.
Minecraft plus Pokémon. Ouais. Ça, en vrai, ça a l'air sympa. Bon, c'est pas tout ça, hein. Il faudrait inviter Insuline et Nicotine. Alors, Insuline et Nicotine, c'est pas le duo DJ formé par Antoine Daniel et Étoile, c'est pas ça? Je dis une bêtise? C'est ça, non? C'est pas ça, Insuline et Nicotine, c'est pas ça? Si, hein, c'est ça. Hein. Duo mythique. Duo mythique. Ok, super. T'as mis un mot dans l'ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur ici? Que tu fais une fête pour tes 18 ans et ça risquait de brûler. Je vais mettre un mot, Luz Axel. Je vais mettre un mot aux voisins. N'hésitez pas à venir. Ouais, n'hésitez pas. Alors, bonne nouvelle, vous savez, j'avais un bébé, j'avais un jeune couple qui était mon voisin ici, dessus ou à côté. Je faisais attention justement au bruit que je faisais. Et en fait, ils ont déménagé il y a pas longtemps. Donc, il n'y a plus le bébé à côté. Ouais, donc ça va, ça. Ça n'a jamais été prouvé que c'était Étoile d'Antoine Daniel. Tu veux dire qu'on a fait un gros leak sa mère là? Ok, d'accord. Ok. Ils en avaient marre. Ah non. Ah non, on s'entendait bien en plus. Ah non, c'est juste que je... À mon avis, c'était un appartement, c'était un petit appartement. À mon avis, puisque je prends... Il y a trois là-dedans, en vrai. À mon avis, c'était un appartement de location, d'attente entre deux trucs. Genre, tu vois, travaux dans un appart ou, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'en vrai, ils sont un peu passés en mode furtif ninja, quoi. Ouais. Ah non, ça faisait pas de bruit ici. Voilà, ça rageait un peu à 2h du matin. T'es, ouais, putain, ce jeu est truqué. Mais vite fait, quoi. Je leur ai demandé d'ailleurs s'ils entendaient du bruit. On n'entend rien. Voilà. Bon, on va peut-être y aller quand même parce que moi, il faut que je cut à midi 30, max. Donc. Midi 30, faut que je passe à la maison, mettre un t-shirt propre, un pantalon propre, c'est le Figaro quand même, hein. Une veste. Et on a une belle action en vrai, d'ailleurs que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ouais. Et donc voilà, midi 30, je cut. Voilà. Bon, vous êtes prêts? On y va? Let's go, sommaire? Ton meilleur slip? Oh, mais non, le slip, c'est bon, je vais pas mettre deux slips par jour non plus. Déjà, je suis à deux t-shirts, deux pantalons par jour là, pour le Figaro, ça va. Ouais. La chronique de la fin du monde, ça donne quoi aujourd'hui? Rien ne vaut la vie, mais pas du tout ici. Ici, c'est la maison du bonheur ici. Qu'est-ce que tu racontes? Une cravate, sinon tu vas faire gaucho. C'est parce que tu dis que c'est parce que c'est le Figaro. J'adore. C'est... Une veste déjà, je vais mettre une veste. On va éviter le hoodie, hein. C'est Grand Palais quand même, c'est Figaro. Hein? Pour déconner. J'ai même pris une douche ce matin. Ah, j'ai beaucoup parlé de l'Iran, ouais, dis-moi oui cette semaine. Beaucoup, beaucoup, et on va en reparler bien sûr. Bon, est-ce qu'on y va les amis pour la revue de presse? Merci. Oh, j'ai pas remercié. Aucun sub. Rainbow86 à l'instant. Skirella. Zertis. Juste Litune. Zéphir. Merci beaucoup pour les soutiens. Est-ce que j'ai votre go pour le sommeil? Merci Capt Rusty pour le soutien le troisième mois. Merci, ça fait plaisir. Et oui, il faut deux, ça fait quatre même. Prêt, go, let's go. Allez, let's go. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bim, c'est parti pour le sommaire. Merci Kev la carotte. Ça, c'est du pseudo. Ok, c'est parti pour le sommaire. Bienvenue les amis dans la matinée Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 16, je dirais. 16 janvier 2026. Et oui, on est déjà en 2026. Vous vous souvenez, les plus anciens, hein, dans les années 80, on parlait de l'an 2000. Hein. Enfin, on se disait, putain, l'an 2000, il y aura des voitures, hein, qui voleront. Hein. On bossera plus. Il y aura des robots, ce sera la fête et tout. Bon, en fait, en 2026, en fait, le monde est à feu et à sang et il y a des guerres partout. Trump veut déclarer la guerre au monde entier. On s'est un peu gouré, quoi. Et les voitures volent toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu ce matin? Je commence par un petit sommaire. Hein, c'est en direct sur Twitch tous les matins, la revue de presse, la matinée Étienne, ça fait 5 ans. C'est sur YouTube en replay. C'est aussi en podcast audio à partir de 15-16 heures tous les jours. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Qu'est-ce que j'ai dans l'actu ce matin? J'ai justement du Trump et du Groenland. Un gros dossier. Hein, je vous ai mis Le Figaro, Le Monde, L'Opinion sur le même sujet. Merci Don Cervantes. Merci Eden pour le Prime. Groenland, Trump persiste, l'Europe se mobilise. Ça résume assez bien l'actu ces derniers jours sur le Groenland. Le Monde, reçu à Washington mercredi, les ministres des Affaires danois et groenlandaises n'ont pas réussi à faire changer la position américaine. Tiens donc, c'est étonnant. Il est clair que le président Trump a le souhait de conquérir le Groenland, a commenté le ministre danois. Il y a quelques années, on vous aurait dit cette phrase, le président américain veut envahir le Groenland, vous auriez ri comme des baleines. Il y a peut-être des baleines dans la région d'ailleurs. Jeudi, un petit groupe de militaires français est arrivé sur l'île Arctique dans le cadre d'un exercice avec la Suède, l'Allemagne, la Norvège et le Danemark. On vous aurait dit qu'il y a des soldats européens, notamment français, qui vont sur un territoire administré par un pays européen, membre de l'OTAN, le Danemark, pour prévenir une éventuelle invasion pour les États-Unis. Vous m'auriez dit, Samuel, tu es fou. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est effrayant ce qui se passe à Nuuk, la capitale groenlandaise. La convoitise américaine consterne la population. Voilà. Donc Trump, intransigeant sur le Groenland, on lira ce papier. Un édito du Monde qui dit non, président Trump, le Groenland ne veut pas devenir américain. La une du Figaro, avec qui on sera tout à l'heure, à partir de 14h en direct. Groenland, les Européens tentent de contrer Trump. Voilà. Les Européens tentent un coup de bluff. Dit le Figaro. Pourquoi? Parce que ce ne sont que quelques soldats, hein, je crois, une dizaine de soldats ou une quinzaine de soldats pour la France. On est dans le domaine du symbole, bien sûr. Hein. On n'envoie pas l'armée française au Groenland. Hein. C'est un signal diplomatique assez fort, en mode, si tu viens militairement au Groenland, bah, tu vas croiser la route de soldats. Est-ce qu'il faudra passer dessus? Donc, c'est le coup de bluff qu'évoque le Figaro. On a le fait que les Républicains, le propre camp de Trump, et sont décontenancés par ce truc. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Groenland? Qu'est-ce qu'il fait? L'obsession arctique de Trump déconcerte les Républicains. Et on a effectivement ce timide bras de fer engagé par le vieux continent. Timide parce que on parle pour l'instant de moyens militaires limités. Vous me parlez souvent de Stephen Miller. Certains me disent, ouais, Trump, il faudrait parler des gens autour de lui. Le vice-président J.D. Vance et ce conseiller de Trump à la sécurité intérieure, Stephen Miller. Eh bien, j'ai trouvé un article qui le présente. Qui est Stephen Miller? Sa vie, son œuvre, voilà. Ses frivolités capillaires, voilà. C'est dans le Figaro. Et puis, on a une question intéressante qui est posée par l'Opinion. Jusqu'où les Européens peuvent-ils vraiment aller? C'est la question que tout le monde se pose. Voilà pour ce gros dossier Groenland. Alors, en marge de ce dossier Groenland dans Le Monde, j'ai vu un article que j'ai trouvé passionnant. Et pourtant, quand on lit le titre, hein, on se dit ouais, « L'Allemagne s'interroge sur l'avenir du projet européen ». Voilà le jus de crâne, quoi. En fait, c'est passionnant. En fait, le titre de cet article, ça pourrait être « Mais est-ce que l'Union européenne va disparaître ?» Est-ce que l'idée même d'une union entre pays européens va disparaître? Voilà. En tout cas, l'Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne politique, l'Allemagne gouvernementale, elle doute de ses partenaires, elle doute de l'Europe. Voilà. Et il y a un petit message envoyé aux États-Unis là, depuis Berlin, qui est un peu étonnant. C'est assez passionnant. Donc voilà. Ah! Attendez, je m'hydrate avant le sujet qui arrive là. Alors, Monsieur Morandini, animateur chez notamment CNews, donc condamné alors en première instance, en appel et par la Cour de cassation pour corruption de mineurs. Voilà, 2 ans de prison avec sursis. Voilà. Et puis, alors, il y a une chaîne où il travaille, CNews, qui avait dit il y a quelques années, on le garde à l'antenne parce que c'est la présomption d'innocence, parce qu'il n'a pas été condamné définitivement, puisqu'il a fait appel. Voilà. Bon, là, c'est la Cour de cassation qui confirme le jugement. Donc, il s'en va, quoi. Et en fait, non. Voilà. Et ça grince des dents. Ah, bah, notamment chez CNews, il y a des gens. Chez CNews, alors à mon avis, de façon anonyme, hein, qui disent non, en fait, c'est pas foufou, quoi. Voilà. Le maintien de Morandini à l'antenne fait grincer des dents chez CNews. Voilà. La condamnation de l'animateur à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs a été validée par la Cour de cassation. Hein. Pas de quoi faire changer la vie, la direction de la chaîne. Alors pourquoi la direction de CNews ne change pas d'avis? Alors, que dit le PDG de Canal Plus France, Gérald Brice-Viret? On assume complètement. Il est à l'antenne et il restera. À bon entendeur. Voilà. Parmi les justifications, le fait que l'animateur envisage de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Hein, premier argument. Donc, c'est toujours l'argument il a été condamné que 3 fois hein, pour la même affaire. Hein. En première instance, en appel et par la Cour de cassation. Donc, c'est pas fini, hein. Et ah, le deuxième argument, peut-être qui va vous convaincre, c'est que désormais les jeunes stagiaires de l'entreprise ne sont pas au même étage que Morandini. Le Parisien explique, en juin dernier, des lycéens avaient été installés en catastrophe au sous-sol pour éviter toute rencontre avec le présentateur. L'un des arguments officiels de la direction, c'est ne vous inquiétez pas, les enfants ne sont pas au même étage. Je n'invente pas, hein, c'est une citation. Hein. Voilà. Ah ben, je trouve intéressant qu'on en parle. Alors, autre sujet média, je ne parle pas trop, moi, en général, de l'actualité de la télé. Hein. Mais bon, là, il y a une petite actu. Alors là, c'est l'inverse de l'article sur l'Allemagne. L'article sur l'Allemagne, vraiment, le titre, tu dis bof, et tu lis l'article, et c'est fascinant. Voilà. Et alors là, c'est l'inverse. Hier, on a alerte, je ne sais pas quoi, sur mon téléphone, je vois un truc qui pop. Article du Figaro, France Télévisions lance sa plus importante réorganisation depuis 20 ans. Et je vois le début de l'article, une révolution radicale qui va tourner genre 60% des salariés de France Télévisions, et qui va faire du streaming et de la présence de France Télévisions sur les réseaux sociaux la part principale de notre activité. Tu vois. Et bien ce matin, j'ai lu l'article. Eh ben, j'ai rien compris. C'est-à-dire que, en gros, la déclaration c'est vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va streamer, hein. Full numérique, hein. Voilà. Et les réseaux sociaux, en veux-tu, en voilà. Bon, j'ai eu. Alors, je me suis dit, là, je vais me régaler, hein. J'ai eu l'article. Je n'ai pas trouvé un seul exemple concret de ce que serait cette révolution. Donc je suis un peu embêté avec cette histoire, je vous lirai l'article. Voilà. Et puis on parlera un petit peu de football à la fin avec deux actus foot, avec un article du Parisien assez critique et assez interrogatif sur le mondial de football aux États-Unis, enfin aux États-Unis, au Canada et au Mexique également. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle ici, hein. Il y a plein de questions autour de ce mondial. C'est des questions environnementales, des questions de prix des places, et puis d'accès des supporters des équipes sélection nationale à cette Coupe du Monde, puisque Trump... Il aime pas trop que des gens de l'extérieur viennent aux États-Unis. Donc, il y a des pays dont il a dit, alors, les supporters de football de ce pays, c'est non. C'est non. Hein? Vous venez pas. Et il y a les pays dont il dit, alors, vous, on va faire attention. Voilà. Et du coup, les passionnés de foot du monde entier disent, ouais, mais c'est quoi cette Coupe du Monde de foot, là, la FIFA, là? Voilà. Petit article là-dessus. Et puis, en parlant de grandes compétitions de football, c'est la finale de la CAN qui arrive, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, avec donc l'affiche Maroc-Pays Hôte contre le Sénégal. C'est en finale dimanche à Rabat. Rencontre au sommet entre les deux grands favoris du tournoi. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette CAN. Pour ceux qui l'ont suivi, on n'est pas un spécialiste de foot. Je ne suis pas vraiment spécialiste de foot. Moi, vous savez que je suis un gros footix, mais je sais que c'est important pour certains. Donc, on en parle. Voilà, du football. Il y commence sommaire. Il y a des trucs, hein. Du foot, de l'actu international, de l'actu en France, de l'actu média. Hein ? À point ? Ah oui, il est à point. Il est croustillant, il est dodu, il est propre, il donne faim. Hein ? Entre Morandini, Trump et France Télé, on va se régaler. On a un beau menu. Il est haletant. Merci. Oui, Roms. Roms dit que ce sommaire est haletant. Ouais. Je suis d'accord. C'est un très bon rendez-vous. Bon, on y go ? On attaque ? Sur le Groenland ? Ouais, c'est parti. Alors, il est haletant, mais nous, on n'a pas le temps. MG, je viens de te piquer ta blague de façon éhontée. Il est à le temps, mais on n'a pas le temps. Je cut à 12h30. On a 2h30. Oh, ça va, 2h30 à lire les journaux, c'est cool. Alors, d'abord, le Groenland. Voilà. Groenland, si je puis me permettre, un dossier qui fait froid dans le dos. Let's go, très en forme. Groenland, Trump persiste. Hein, il veut envahir le Groenland, voilà, c'est tout. Hein. Et l'Europe dit bah non. L'Europe se mobilise. Donc, je vous lisais ces mots tout à l'heure. Mais je ne vais pas vous les répéter parce que c'est dans l'article. Trump intransigeant sur le Groenland. Le ministre des Affaires étrangères danois et groenlandaise ont vu Marco Rubio et Jed Evans à Washington. Ça ne s'est pas très bien passé. Le Groenland au centre du monde. Alors que de façon insistante, les États-Unis, le président américain Donald Trump, s'il vous plaît, affirment leur volonté de prendre le contrôle de ce territoire autonome relevant de la souveraineté du Danemark, pays européen, pays membre de l'UE, pays membre de l'OTAN. L'architecture transatlantique tremble sur ses bases. Le ministre des Affaires étrangères danois, Lars Løkke Rasmussen, son homologue groenlandaise, Vivian Motzfeldt, était à Washington mercredi pour une réunion de crise à la Maison-Blanche. Voilà. Ils ont rencontré le vice-président américain, Jed Evans, et le secrétaire d'État, Marco Rubio. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, j'ai pas lancé l'ETC. Bim. Merci à toi. Le time code. À leur sortie, les visiteurs ont eu un échange avec la presse à l'ambassade du Danemark. Leur visage était grave. Derrière les expressions convenues, une discussion franche entre partenaires égaux. Tu m'étonnes que. Lars Løkke Rasmussen laissait transparaître une forme de détresse devant une administration américaine hostile. Il existe toujours un désaccord fondamental, a dit le ministre danois en reconnaissant son impuissance à changer la position de ses hôtes américains. Et il a cette déclaration qui, il y a quelques années, nous aurait fait rire. Il n'y a dans aucune réalité dystopique de la marche du monde, cette phrase est possible, et pourtant elle est possible. Il est clair que le président Donald Trump a le souhait de conquérir le Groenland. Tu vois, tu fais un jeu de rôle, genre, je sais pas, de guerre, de conquête de pays. À un moment, tu dis, ouais, je suis président américain, je veux envers le Groenland. Les joueurs te disent, ah, doucement, doucement, d'inventer des trucs comme ça, impossible. Mais c'est plus impossible, c'est juste l'actu maintenant. Merci Alpharuis, merci ton Cervantes. Un nébuleux groupe d'experts a été annoncé, dont la première réunion se tiendrait dans les prochaines semaines, à un groupe d'experts qui aurait pour objectif de répondre aux préoccupations sécuritaires américaines tout en respectant les lignes rouges du Danemark en matière de souveraineté. Bon, il y a des gars qui vont se réunir. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas, a poursuivi le ministre danois qui espère pouvoir baisser la température. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous rappelle qu'on parle du Groenland. Désolé, ce matin, j'ai mangé un clown. Non mais vu l'actu, à un moment, faut... Moi, j'invite à la déconne. C'est-à-dire, vu l'actu qu'on se prend, là, depuis quelques temps, j'invite à la déconne. Je revendique le droit à dire des bêtises, quoi. Parce que sinon, on va pas s'en sortir, quoi. Hein hein ok, c'est catastrophique, mais rions, quoi. Donc, il veut faire baisser la température. Lors d'une rencontre avec la presse danoise, le chef de la diplomatie a précisé que son pays avait été félicité à la Maison-Blanche pour avoir évité les investissements chinois dans les infrastructures. Il a aussi cité pour le Groenland l'exemple du Panama. Blablabla, blablabla, blablabla. Bon, blabla, mais les Européens ne veulent pas s'en satisfaire et tentent de se montrer proactifs face à cette puissance autrefois protectrice, les États-Unis, aujourd'hui hostiles à leurs principes et de plus en plus souvent à leurs intérêts. De les États-Unis alliés de l'Union Européenne à... Les États-Unis qui deviennent, c'est là où le move est fou, une menace. Voilà. De façon préventive, plus tôt dans la journée, le Danemark avait annoncé un renforcement de sa présence militaire au Groenland. Ok. La tenue d'exercice dans le cadre de l'OTAN. Le ministre danois de la Défense a évoqué un exercice militaire de long terme baptisé Arctic Endurance. À partir d'aujourd'hui, a-t-il annoncé, dans les jours à venir, la présence militaire sera renforcée au Groenland et dans ses environs avec des avions, des navires, des soldats, y compris d'autres alliés de l'OTAN. On appelle ça des bruits de bottes. Sauf que la menace, là, sous-tendue en dessous de cette mobilisation de l'armée danoise, c'est une menace américaine. Américaine. Quelques instants plus tôt, le Premier ministre suédois, on change de pays, avait révélé que plusieurs officiers de l'armée suédoise étaient en chemin pour le Groenland, à la demande du Danemark. L'Allemagne et la France ont aussi décidé d'envoyer un petit détachement. On parle de quelques militaires, hein, une dizaine, une quinzaine pour chaque pays, quoi. On est dans le domaine du symbole, vous l'avez compris. Pour afficher un front uni. En revanche, le silence du Royaume-Uni à cette heure est remarqué. Naguère conseiller pour la sécurité nationale auprès de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, Phil Gordon, donc c'est un Américain, se félicite de cette mobilisation. C'est un Américain qui, manifestement, n'est pas très pro-Trump, et pour cause, il a travaillé avec Kamala Harris. Je pense que les Européens sont avisés d'augmenter cette présence de leurs forces au Groenland et de souligner clairement que les États-Unis paieraient un prix élevé pour une annexion par la force. Évidemment, l'Europe ne pourrait pas défendre l'île sur un plan militaire si Trump était décidé à s'en emparer. Hein, t'imagines bien que c'est pas les 15 militaires français qui vont bloquer l'armée US. Hein. Mais je ne pense pas que tuer des Européens pour prendre le contrôle du Groenland sera un geste populaire ici aux États-Unis, même parmi ses partisans. La phrase est folle. La phrase est folle. Je ne pense pas que tuer des Européens pour prendre le contrôle du Groenland sera un geste populaire aux États-Unis. On est en 2026. Voilà. Et dans l'actualité, il y a des phrases comme ça. Il y a très peu de soutien dans le pays en faveur de cette distraction inutile, dit-il. Encore. Ouais, genre, tuer des Français pas fans, exactement. Selon un sondage Ipsos, Reuters publié mercredi, seulement 17% des Américains approuvent ce projet d'annexion. C'est pour ça que tout à l'heure que je me suis permis de corriger, que les États-Unis veulent envahir le Groenland, pas tant que ça en vrai. Et l'usage de la force militaire est rejeté à 71%. Voilà. À Washington, Lars Løkke Rasmussen, donc c'est le ministre danois, a exprimé un sentiment général chez les alliés. Ce n'est pas facile de penser à des solutions lorsqu'on se réveille chaque matin avec de nouvelles menaces. Et en guise de bienvenue, Donald Trump avait publié un nouveau message cinglant sur son réseau social, Truth Social, mercredi au petit matin. Il y affirmait que les États-Unis avaient besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale, mentionnant pour la première fois comme argument le projet pharaonique et encore imprécis de Dôme d'or, un système de défense antimissile futuriste et onéreux. C'est un vieux projet d'ailleurs, mais qui est un peu réactualisé. Vous savez, de parapluie, là, de dôme d'or, un peu comme une douche, hein, une douche d'or. Une golden shower, comme disent les spécialistes des questions de défense. Le magna, le milliardaire, ajoutait que l'OTAN devrait montrer la voie pour permettre à Washington d'obtenir ce territoire sous peine de voir la Russie ou la Chine s'en saisir. Donc Trump, il dit, voilà, l'argument il est bizarre. Eh oui, c'est ça. Il faut que Washington obtienne ce territoire sous peine de voir la Russie ou la Chine s'en saisir. En gros, c'est nous ou ce sera les Russes ou les Chinois. Et en fait, on vous protège, les gars. Voilà. Alors, le monde, c'est le monde ? C'est le monde. Le monde dit, remarque étrange à double titre. Le devenir du Groenland, territoire autonome du Royaume du Danemark, relève de la souveraineté exclusive de ce pays et non de l'Alliance transatlantique, pas de l'OTAN. Si nous devons choisir entre les États-Unis et le Danemark, là, maintenant, nous choisissons le Danemark, a dit par exemple le chef du gouvernement groenlandais. En outre, le Danemark est membre de l'OTAN, concerné à ce titre par l'article 5 sur la solidarité entre membres en cas d'attaque extérieure. Or, lorsqu'il évoque une prise éventuelle du Groenland par la Russie ou par la Chine, Trump semble raisonner comme si l'article 5 n'existait plus, hein, et devait être remplacé, la solidarité interpays de l'OTAN, entre un titre de propriété américain. Allez les gars, c'est à nous. De fait, par ce type de discours et d'aspiration, le milliardaire vide l'OTAN d'une partie de sa crédibilité, de sa capacité de dissuasion. Au fil des propos publics répétés de l'administration Trump au sujet du Groenland depuis 15 jours, l'idée longtemps jugée irréaliste d'une prise de contrôle par la force n'est plus écartée. Aucun scénario précis n'a encore été envisagé dans cette hypothèse, mais la plupart des experts et diplomates s'accordent à reconnaître qu'il s'agirait là de la fin de l'OTAN. Salut, Giulotesia. L'opération elle-même, selon une source européenne, serait d'une grande simplicité. Quelques milliers de soldats américains déployés, un drapeau américain planté pour les caméras, mais les conséquences transatlantiques seraient lourdes. Je ne vous lis pas tout l'article, je vais à l'essentiel. Mais en gros, voilà. Voilà où on en est. Alors, on a un édito. Alors, l'édito, vous savez, c'est quand un journaliste ou un journal prend la parole et donne son avis. Voilà. Là, c'est l'édito du Monde, et dont le titre est assez clair. Non, président Trump. Donc, c'est un édito qui est adressé à Trump. Je ne suis pas sûr que Trump lise le Monde. Non, président Trump, le Groenland ne veut pas devenir américain. Il faut saluer, écrit Le Monde, la décision de pays européens d'effectuer symboliquement un exercice militaire conjoint avec le Danemark sur le territoire autonome du Groenland. Le temps presse pour éviter une crise aux conséquences encore incalculables de part et d'autre de l'Atlantique. La rencontre à Washington, mercredi, des ministres danois et groenlandais des affaires étrangères avec des représentants américains s'est conclue sur le constat d'un désaccord fondamental, c'est ce qu'on vient de lire. Cette tension est le fait d'un seul homme, Trump. En s'obstinant à vouloir s'emparer de la grande île par tous les moyens, le président américain témoigne d'une irresponsabilité coupable et condamnable. Il y a Hugo qui vient d'écrire « Trump ne lit pas le monde, il joue avec ». On ne peut que regretter que personne dans son ouvrage n'ait la volonté ou le courage de lui le dire. L'explication fournie par cet homme sans surmoi, au cours d'un entretien au New York Times, donne le vertige. À l'en croire, Trump veut posséder le Groenland parce que, et là encore ce ne sont pas des mots inventés, c'est ce qu'il a déclaré au New York Times. Pourquoi Trump veut prendre le contrôle du Groenland ? Parce que c'est ce qu'il ressent psychologiquement comme nécessaire pour réussir. Ce sont les mots de Trump. De toutes les raisons avancées dans le désordre pour justifier une telle violation de la souveraineté d'un allié, c'est sans doute le plus conforme à la nature de ce président qui la rend particulièrement inquiétante. C'est-à-dire que psychologiquement, il sent que c'est nécessaire. « et le monde écrit. Et rien, absolument rien ne saurait étayer la position officielle américaine. Le Groenland est un territoire autonome rattaché à un membre de l'OTAN, le Danemark, dont la souveraineté sur l'île a été reconnue par les États-Unis depuis plus d'un siècle. Le Premier ministre groenlandais, s'exprimant au nom de ceux qui l'ont élu, a indiqué qu'on ne peut plus clairement, le 13 janvier, qu'en cas de crise, ces derniers, les Groenlandais, choisiront le Danemark plutôt que les États-Unis. Par ailleurs, le royaume danois a toujours fait preuve d'un atlantisme irréprochable, accompagnant fidèlement les États-Unis dans toutes leurs aventures guerrières, même les plus hasardeuses. Un traité permet déjà à Washington, d'ailleurs depuis des décennies, de prendre toutes les dispositions pour renforcer sa présence militaire au Groenland, puisqu'il y a un traité avec le Danemark sur la question. Argument, encore un argument, le Danemark a fait part de sa volonté d'augmenter sa propre présence militaire au Groenland, d'investir encore plus, puisque Trump estime qu'il y a des menaces sur la sécurité du Groenland. Les refus de tous ces faits dit, selon Le Monde, le caractère irrationnel que revêt désormais le Groenland pour Donald Trump, savoir résister à des obsessions sans fondement est pourtant impréalable pour tout homme d'État. Voilà. Alors, il y a un dossier dans Le Monde. Alors, il y a un dossier dans Le Figaro. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet ce matin, notamment sur, vous savez, cette initiative européenne d'envoyer quelques soldats allemands, français, suédois sur place. Donc là, je pense que les infos, on les a. Voilà, Le Figaro parle d'une poignée d'uniformes. Bah, Le Figaro a raison. Ça n'est guère plus. Bon, manifestement, il y aurait peut-être des soldats britanniques aussi. Pas sûr, parce que le Monde disait que la Grande-Bretagne était assez silencieuse pour l'instant. Voilà. Symbolique, la présence militaire française, quelques opérateurs des troupes de montagne, n'a pas vocation à repousser une invasion. Avec cet exercice, c'est ce que je disais, c'est un message diplomatique. Les Européens veulent adresser un message au chef de la Maison-Blanche. C'est ce que Le Figaro appelle un coup de bluff des Européens. Et il y a un article sur le fait qu'au sein même de son propre camp, les Républicains, bah des voix s'élèvent pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'obsession arctique de Trump déconcerte les Républicains. Donc là, le début de l'article rappelle toutes les infos qu'on vient de donner. Par exemple, il explique que les membres du cabinet de Trump ont tenté de minimiser les propos du président. Par exemple, Marco Rubio, la semaine dernière, avait rencontré des élus du Congrès américain, avait tenté de les rassurer en expliquant que, en fait, Trump ne faisait que réitérer sa proposition d'acheter le Groenland, hein, de faire un chèque. Les Américains, enfin les États-Unis, dans l'histoire des États-Unis, ont déjà proposé plusieurs fois d'acheter le Groenland. Et Trump l'a déjà fait une fois lors de son premier mandat. Mais le lendemain de ces propos de Marco Rubio, Trump avait réaffirmé que le recours à la force était une option. Hein, c'est une déclaration qu'il a faite. Stephen Miller, dont on va parler tout à l'heure, le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, qui est un conseiller de Trump, lui a déclaré avec mépris que personne n'allait se battre pour le Groenland, hein, en mode les Européens ne feront rien. Et le même jour, sa femme, donc la femme de Stephen Miller, devenue podcasteuse après avoir travaillé avec Musk, avait publié une carte du Groenland couverte d'un drapeau américain avec ce mot écrit dessus « bientôt ». Il manque le bas de l'article. Attendez, il me manque le bas de l'article là, qui est caché par un truc. Je vais aller voir dans Le Figaro, page 2. Hop. Parce que c'est le début du passage qui m'intéresse. Hop. Ici. La fixation présidentielle, donc sur le Groenland, américaine, ne rencontre guère d'écho dans l'opinion américaine. C'est le sondage qu'on a vu tout à l'heure. Y compris chez les électeurs républicains. Hop, là je peux prendre mon article. Une prise de contrôle du Groenland par les États-Unis ne serait soutenue que par 17% des Américains selon le sondage Reuters-Ipsos qu'on a évoqué tout à l'heure. Et seuls 4% des Américains estiment que le recours à la force serait une bonne idée. En revanche, vous avez 66% des sondés qui craignent que les pressions de Trump nuisent aux relations entre les États-Unis et leurs alliés européens. Faux sondage, a répondu Trump. Hein ? Très souvent, on ne peut pas convaincre les électeurs, a aussi dit le président américain. Attendez, c'est le sondage qui est faux ou c'est les électeurs qui ne sont pas convaincus ? Bon, c'est peut-être les deux. J'essaie de comprendre comment Trump analyse tout ça. Voilà. Vous devez juste faire ce qui est juste, et beaucoup de choses que j'ai faites n'étaient pas très populaires politiquement, mais elles sont devenues par la suite tellement elles ont réussi. Les sénateurs républicains préfèrent éviter de s'opposer à un président dont ils craignent la vindicte. Et leurs critiques ont surtout été anonymes. C'est ce que je vous disais. Hein. Des prises de parole, mais sous couvert de l'anonymat parfois. Pas pour Mitch McConnell, qui est l'ancien chef de la majorité républicaine, qui est devenu depuis quelques années un opposant à Trump, qui a déclaré « À moins que le président ne puisse démontrer le contraire, la proposition qui nous est présentée aujourd'hui est très simple, détruire la confiance durement gagnée avec nos fidèles alliés dans l'accès des États-Unis à l'Arctique. » Vous avez une élue qui s'appelle Lisa, républicaine encore, hein, qui s'appelle Lisa Murkowski, qui s'est associée à une sénatrice démocrate pour coparrainer un projet de loi sur la protection de l'unité de l'OTAN et qui bloquerait, si cette loi était adoptée par le Congrès, l'utilisation du budget du Pentagone et du Département d'État pour occuper, annexer, mener les opérations militaires contre le Groenland ou tout autre territoire souverain d'un État membre de l'OTAN. Donc vous avez des élus républicains et démocrates qui vont tenter de faire passer cette loi. Mais cette capacité du Sénat à s'opposer à Trump suscite quelques doutes. Mercredi, une résolution visant à limiter les pouvoirs du président de recourir à la force militaire au Venezuela a été déjà rejetée par le Sénat après que deux sénateurs républicains ont changé leur vote initial à la suite d'intenses pressions de Trump qui avait appelé publiquement à ne pas réélire ces deux élus s'ils votaient le texte. Voilà. Je lis en diagonale l'article du Figaro sur le timide bras de fer engagé par l'Europe, par le vieux continent. Voilà. Et je pense qu'il se recoupe un peu avec celui-ci. Jusqu'où les Européens peuvent-ils vraiment aller ? J'ai envie de lire celui-ci. Et après, je reviendrai en arrière pour voir ce portrait de Stephen Miller, personnage que je ne connais pas très bien. Jusqu'où les Européens peuvent-ils vraiment aller ? Ça, c'est une question qui est posée par l'opinion ce matin. Ce qui avait semblé commencer par des bravades sans lendemain de Trump ressemble de plus en plus à une crise internationale d'un genre inédit. Plusieurs pays du nord de l'Europe, dont la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, mais aussi la France et l'Allemagne, ont annoncé les 14 et 15 janvier l'envoi de personnel militaire au Groenland. Les maigres effectifs dépêchés, 13 Allemands, 2 Finlandais, doivent participer à une mission de reconnaissance en vue d'exercices militaires organisés par le Danemark. Si les manœuvres ne sont pas rares dans la région, celles-ci s'inscrivent, vous le savez, dans un contexte rendu abrasif par les sorties répétées de Trump qui dit vouloir prendre le contrôle de la plus vaste île du monde. Les pays impliqués, européens dont on vient de parler, restent discrets sur les buts de l'opération. Le ministre allemand de la Défense a fait savoir que cette mission avait pour but, je cite, « d'explorer les options permettant d'assurer la sécurité de la région à la lumière des menaces russes et chinoises dans l'Arctique ». Une façon... Merci Chris, j'irai voir. Ça me dit quelque chose, je crois que j'ai vu le mail. Une façon de jouer le jeu du milliardaire américain, hein, qui justifie, vous le savez, sa volonté d'annexer le Groenland par la présence supposée de ministres de navires russes et chinois dans la région. Vous avez un ministre danois qui a dit, d'après nos services secrets, le dernier navire chinois qu'on a vu dans la région, c'était il y a 10 ans. Il n'en demeure pas moins, hein, malgré la prudence des mots utilisés par les Européens. Hein, ils disent pas « Trump, tu tares ta gueule, tu vas prendre cher ». Ils disent « Ok, on envoie des soldats parce qu'on va regarder effectivement s'il n'y a pas des menaces chinoises et russes sur le territoire ». Il n'en demeure pas moins que ces détachements ont été annoncés dans la foulée de la visite des ministres des Affaires étrangères groenlandais et danois à Washington, qui s'est soldée par le constat de désaccords fondamentaux. l'envoi d'officiers européens est donc bien un signal politique pour ceux qui en douteraient envoyé à Trump pour lui dire que le temps des concessions est terminé, explique un professeur de relations internationales en Belgique. C'est ce qu'on a fait sur les droits de douane et ça n'a rien donné. Les Européens s'efforcent en réalité de trouver un délicat équilibre, montrer qu'ils prennent au sérieux le soutien au Danemark sans risquer de faire monter le niveau de tension. Prudence donc, on essaie d'éviter le scénario du pire, à savoir la fin de l'OTAN, explique un diplomate d'un pays nordique. Les déclarations des dirigeants européens sur le recours à la clause d'assistance mutuelle du traité sur l'Union européenne, article 42.7 pour les amateurs, témoignent de cette difficulté à trouver le ton juste. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Dans le cas d'une brutale aggravation de la situation, l'Europe dispose d'options militaires limitées face à la première puissance militaire de la planète. Évidemment, on ne va pas, merci Ambielo, déclarer la guerre aux États-Unis, estime Sven Biskop, pour qui les 27 ont en revanche intérêt à brandir la menace de représailles économiques. Des voix au Parlement européen, notamment au sein de la famille centriste et libérale, à laquelle appartient Emmanuel Macron, s'élèvent également en ce sens. Des sanctions économiques, des représailles économiques. Alors, si jamais Trump allait au bout de son idée. En vrai, il ne ferait pas exprès pour éclater l'OTAN qu'il critique en permanence. À ce modèle, c'est ce qui est évoqué, effectivement, tu as raison, dans cet article du Figaro que je n'ai pas lu. C'est qui le professeur belge ? Je vais te dire. C'est justement Sven Biskop, professeur de relations internationales à l'université de Gand en Belgique. Je vous lis un petit peu. Ok. Alors, en marge de ce dossier, je découvre dans Le Figaro un portrait de Stephen Miller. Et Stephen Miller, qui m'en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est vous. Hein, dans la commu, dans le chat, je vois parfois des mots peu amènes sur le personnage, que je ne connais pas bien. Bah, ça tombe bien, on a un portrait sur lui. Salut Carangui. Oh, on est sur le Groenland, on est sur le premier sujet. Let's go. Stephen Miller, porte-voix de la politique néo-impérialiste de Trump. Le conseiller à la sécurité intérieure se déporte désormais sur les dossiers internationaux. L'influent conseiller est apparu plus de 200 fois à la télévision en 2025. C'est pas vraiment un conseiller de l'ombre, comme on dit parfois. Depuis un an, son visage allongé et impassible, ses sourires narquois, son assurance insolente sont devenus le symbole de la politique migratoire radicale de l'administration américaine, républicaine. On le savait investi à la tête d'une équipe de plus de 40 personnes de questions de politique intérieure, mais depuis quelques jours, Stephen Miller s'est aussi positionné sur les questions internationales. Dans l'ombre du président américain dans des pourparlers pour la paix de l'Ukraine à Mar-a-Lago, fin décembre, il s'est surtout distingué après la capture de Maduro au Venezuela, en déclarant, de point ouvrir les guillemets, « Nous sommes une superpuissance, et sous la présidence de Trump, nous allons nous comporter en tant que tels ». Ça, le message est clair. Nous vivons dans un monde. Écoutez ces mots parce qu'ils sont très clairs en fait. Nous vivons dans un monde, c'est l'homme qui murmure à l'oreille de Trump quoi. Nous vivons dans un monde, dans le monde réel, qui est gouverné par la force, qui est gouverné par le pouvoir. Ce sont les lois d'airain du monde depuis la nuit des temps. Quelques instants avant, sa femme, podcasteuse en vue de la magasphère, postait sur les réseaux sociaux une carte du Groenland recouverte du drapeau américain, jetant de l'huile sur le feu avec les partenaires européens et américains. Et des États-Unis, pardon. Voilà. Et son mari de déclarer « Mais personne ne va combattre militairement contre les États-Unis pour l'avenir du Groenland. » Stephen Miller n'a pas tenté d'expliquer les raisons qui poussent l'Amérique à changer le ton dans ce nouvel ordre mondial. Il n'a pas disserté sur la nouvelle stratégie de sécurité nationale publiée par la Maison-Blanche de début décembre. Il a simplement rappelé la vision du monde trumpiste qu'il contribue à façonner et la sienne faite de rapports de force. On le présente souvent comme un idéologue. Il est incroyablement pragmatique, veut croire le sénateur républicain James Banks. 6000 heures. Qui est-il pour Trump, ce monsieur ? A gagné la confiance absolue de Trump, le président s'est déjà plaint de tout le monde dans son entourage, sauf de lui, explique Kevin McCarthy, qui est l'ancien président de la Chambre des représentants. C'est d'abord grâce à son efficacité à traduire les décisions présidentielles les plus radicales en politique sur tous les fronts. Chaque jour, il commande aux principales agences fédérales. Il a piloté, par exemple, l'offensive de la Maison-Blanche contre les universités américaines jugées déviantes. Il a convaincu le Congrès d'adopter un budget de 150 milliards de dollars pour la sécurité intérieure. Il a remis au goût du jour l'Alien Enemy Act de 1798, hein, la loi sur les ennemis étrangers, permettant de détenir et d'expulser des citoyens de nations ennemies sans audience judiciaire, donc, préalable. Le magazine The Atlantic raconte dans une anecdote que Trump, un jour, s'est plaint des tentes de sans-abri qui s'entassaient devant le ministère des Affaires étrangères. Un murmure du président à son conseiller a suffi. Quelques heures plus tard, tous les campements de sans-abri avaient disparu. Miller est le bras armé du président, à moins que ce ne soit l'inverse. Issu d'une famille d'immigrés juifs, il a forgé ses convictions dogmatiques dès son lycée en Californie en luttant, selon ses mots, contre l'endoctrinement d'extrême gauche. Il a fait ses armes à la lecture de Guns, Crime and Freedom, écrit par le vice-président de la NRA, donc c'est le lobby des armes, Wayne LaPierre, ou du Camp des Saints, roman populaire dans les milieux conservateurs américains, d'un écrivain français, Jean Raspail, qui décrit la submersion de la civilisation occidentale par l'immigration venue du tiers-monde. Je pense que ça vous rappellera des choses. Après l'université, il travaille à la Chambre des représentants et au Sénat, et puis en 2015, il rejoint l'équipe de campagne de Trump. Quel est le regard de ce monsieur sur Trump ? Pour lui, le milliardaire est l'antidote à la corruption, aux échecs, aux manigances sinistres de notre classe dirigeante défaillante. Bon, il se parle beaucoup, blablabla. Voilà. Surtout, l'éminence grise conçoit son rôle comme celui d'un soldat en temps de guerre. Nous triompherons. C'est vrai que Diesel, ta dernière remarque est quand même très bizarre. Ah bah bon, il est sympa ce message pourtant. Ah, carrément. La Pravda, Étienne. Bientôt, alors la Pravda, c'est la vérité en russe. Bientôt, la libellisation des médias. Ah oui, c'est un débat intéressant, ça. Pour distinguer les gens qui pensent bien. Hein. La censure, Étienne. C'est un autre jour, ça, c'est 4 décembre. 80% des gens, ils sont de gauche. Mais de gauche, pourquoi tu mets gauche au pluriel du coup ? Sont deux gauches. Remarque, oui, il peut y avoir plusieurs gauches. C'est une petite régalade du matin. Un petit florilège. Non, pardon, il y a 152 messages quand même. Hein. Bon, le problème, c'est que les modérateurs l'ont averti plusieurs fois. Et en fait, bon, manifestement, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je salue le travail des modos, d'ailleurs, sur cette chaîne. Ah, bah oui, mais ça précise un peu la pensée. Alors, quel jour? Parce que c'est un jour où tu as beaucoup écrit, là, quasiment toutes les minutes. Oh là là, c'est quel jour ça? Bon, bref, il y a quelques temps, oh oui, là, le 13 octobre, voilà, tu as fait feu de tout bois. Et notamment pour nous dire, donc ça contextualise un petit peu. Attends. Ah oh, j'ai perdu parce que ce jour-là, tu étais déchaîné. Si l'immigration est une chance pour la France, pourquoi est-on aussi endetté et en récession? Effectivement, ça, alors ça, pour le coup, c'est le corpus idéologique du FN, qui est devenu le RN depuis, effectivement, que l'immigration est la source de tous les maux de notre pays. Donc, c'est effectivement ce corpus-là. Merci en tout cas de ton passage. Bon, désolé, mais les modos n'en pouvaient plus. Donc, je reviens à monsieur Stephen Miller. Mais surtout, l'éminence grise conçoit son rôle comme celui d'un soldat en temps de guerre. Nous triompherons des forces du mal, a-t-il martelé, imperturbable, après l'assassinat de Charlie Kirk. Il oppose volontiers dans cette rhétorique le peuple noble et vertueux à l'organisation extrémiste du Parti démocrate. Le Parti démocrate est une organisation extrémiste. Ses adversaires le honnissent, mais les caricatures d'architectes du diable, de nazis ou de Voldemort qu'on trouve dans les manifs ou sur les murs de la capitale semblent être pour lui des titres de gloire. Désormais porte-voix de la politique néo-impérialiste de Trump, Miller est plus que jamais le premier ministre de la Maison-Blanche selon les termes de Steve Bannon. C'est bien, moi je ne connaissais pas trop le personnage, on a un portrait du Figaro que je trouve assez intéressant, qui nous donne des clés de lecture pour comprendre un petit peu sa pensée, d'où il vient, ce qu'il essaie de faire. Je vous lis un petit peu, et puis on passe à un autre sujet que je trouve fascinant, c'est l'interrogation de l'Allemagne sur le projet européen. Mais je vous lis d'abord. Tu le confortes dans son racisme en balayant la question, me dit Indicus. La personne dont nous parlions à l'instant, Indicus, n'a pas dit clairement qu'elle était raciste par ailleurs. Première chose. Deuxième chose, ça n'est pas une chaîne militante ici. Moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Voilà. Si je décide de faire cette chaîne militante, vous savez que la question de l'extrême droite et de l'éventuelle accession au pouvoir en France, notre pays, est devenue une question centrale, une question polarisante. C'est-à-dire que quand tu vas sur les réseaux sociaux sur les questions politiques, hein, je ne parle pas des streams de cuisine ou de jeux vidéo, mais dans la thématique de l'actualité, et notamment de l'actualité politique, c'est devenu une question centrale. Tout le monde ne parle que de ça tout le temps, voilà. Et j'ai l'impression que. Alors d'abord, la politique s'est polarisée, les médias sont polarisés, avec des médias qui s'en prennent vertement les uns aux autres. Hein. Il suffit de voir les échanges entre CNews et la direction de France Télévisions, par exemple. Et puis, sans doute, une partie de la population aussi, dans quelle mesure ça, c'est difficile à mesurer, qui se polarise. Ici, ce n'est pas une chaîne militante, c'est une chaîne qui se veut plutôt vouloir parler d'information. Et je ne veux pas, même si c'est un sujet central, vous comprenez bien que je ne veux pas faire de cette chaîne une chaîne où on ne parle que de ça. Voilà. Or, depuis 5 ans que je fais la revue de presse, évidemment, l'actualité politique, elle a sa part, et le RN étant un des partis qui existent en France, du coup, le RN, dans cette actualité politique, a également sa part. Donc c'est un sujet dont on parle très régulièrement. Mais ce que je ne veux pas, c'est que cette question-là de l'éventuelle accession du RN au pouvoir, et de ce qu'est le RN, de ce qu'il recouvre, c'est que ça devienne le seul sujet, le sujet principal. Voilà. Et cette question-là de qu'est-ce que le RN, quel est vraiment ce parti, quelles sont ses propositions pour la France, Indicush, mais je l'ai traité, mais des centaines de fois sur cette chaîne. Voilà. Des centaines de fois. Voilà. Et certains petits comptes anonymes sur X, voilà, ont clippé déjà. Hein. Ces passages à destination de leur public pour bien faire réagir, pour bien me faire insulter, bien me faire agresser. Hein. Un jour, j'écrirai un bouquin de tous ces messages. Donc, Indy Kush, un petit Google, hein, ça prend 2 secondes. Voilà. Tu tapes Samuel Etienne, Rassemblement National sur Google et t'as tout ça. Hein. Donc, je ne peux pas le faire tous les matins pendant 1 heure. Je le sais bien, mais là, tu t'es arrêté sur le message et ils vont aussi clipper ce passage pour dire que tu ne sais pas quoi répondre. Mais je m'en fous, en fait, d'eux. Hein. Je ne cherche pas à les convaincre. Moi, je ne suis pas. C'est pas la chaîne qui. Je ne veux pas faire de cette chaîne une chaîne qui ne parle que de ça, quoi. C'est ma chaîne. Là, je me suis arrêté sur ce message parce que cette personne a été bannie par la modération. Et je voulais que cette personne comprenne de. Mais je ne te parle pas de haut. Il me dit que arrête de me parler de. Mais je ne te parle pas de haut. Je te dis que je fais ce que je veux. Et je ne veux pas faire de cette chaîne une chaîne qui parle tous les jours pendant 3 heures du RN. Faut aller voir Clément Viktorovitch pour voir si les gens veulent du militantisme. Je crois pas que Clément soit un militant par ailleurs. C'est plutôt un décrypteur, non ? Voilà. Pourquoi certains veulent absolument nous imposer cette actualité en fait ? On en parle déjà suffisamment, je pense. Allez, sujet suivant. L'Allemagne et l'Europe. Alors, le titre de l'article ne fait vraiment pas envie. Hein. Voilà. On est dans la sobriété du journal Le Monde. C'est pas sexy. Hein. L'Allemagne s'interroge sur l'avenir du projet européen. Bon, j'avoue, je lis ça. Ça me hype pas trop. Mais comme j'aime bien lire un petit peu tout ce qui passe sous mes yeux, je rentre dans l'article et pour le coup, je le trouve vraiment intéressant. L'Allemagne s'interroge sur l'avenir du projet européen. Et en fait, tu lis l'article et tu te dis, en fait, ce qu'il y a dans cet article, c'est est-ce que l'Europe va disparaître ? Est-ce que l'Union européenne va disparaître ? Berlin doute de la capacité de l'UE, de l'Union européenne, à résister à la progression des partis nationalistes et au coup de boutoir de l'administration Trump. Il y a Gamet78 qui dit « Si t'es de droite, t'es forcément facho ». Bien sûr que non. Mais le problème, c'est que à l'extrême droite, quand tu dis par exemple que le RN est un parti d'extrême droite, on te traite de gaucho. Vous voyez le niveau des arguments de part et d'autre. Mais dire que le RN est un parti d'extrême droite ne fait pas de toi un gaucho. C'est ça le problème. Vous voyez, le niveau du débat, il est beaucoup trop bas. Je reviens à cet article, qui est passionnant, vous allez voir. 15 ans après la crise de l'euro, l'Allemagne se prendrait-elle à douter de l'Europe ? En fait, c'est hyper important, parce que l'Allemagne, comme la France, sont des moteurs essentiels de la construction européenne. La montée des partis nationalistes, 4 années de guerre en Ukraine sans espoir tangible de cesser le feu et la difficulté des 27 à répondre aux attaques de Trump ont installé en Allemagne une forme d'incrédulité sur la capacité de l'UE à être davantage qu'un espace économique. Il y a un scepticisme croissant en Allemagne sur le projet européen. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme ce qu'on est en train de lire. C'est ce que reconnaît la coprésidente des Verts allemands qui s'appelle Franziska Brandner. Quand je le défends, ce projet européen, on me dit « Mais avec qui tu veux faire ton Europe ? Avec Giorgia Meloni, hein, qui est la présidente du Conseil italien, qui est eurosceptique ? Avec la Hongrie ? Avec la Tchéquie ? Avec la Slovaquie, qui sont également eurosceptiques ? Avec Emmanuel Macron, qui n'a plus de pouvoir ? Et avec une France qui pourrait basculer à l'extrême droite en 2027 ? On renonce à avancer. Donc, dit donc cette élue allemande, notamment dans la défense et la sécurité, à cause, donc dit cette élue allemande, de l'hypothèse d'une Marine Le Pen à l'Elysée en 2027. Si on continue comme ça, en permettant à Trump de nous diviser, la fin de l'Union européenne est possible. La fin de l'UE n'est plus un tabou. Cette phrase est folle. Lui fait écho l'essayiste Sabine Reinfans dans la dernière chronique du Spiegel, hein, qui est un journal allemand, décrivant une Union européenne à bout de souffle et profondément divisée. Quand on se souvient des débuts de l'Union européenne, le présent paraît décevant, écrit-elle. L'UE n'est pas en décomposition, ni incapable d'agir, mais elle s'est affaiblie. de l'intérieur. Sa fin, longtemps inimaginable, est aujourd'hui surtout une idée désagréable dont personne n'aime parler. L'auteur ne serait pas surpris si dans 10 ans, cette Union européenne-là n'existe plus. Pas à cause d'un grand bouleversement, mais d'une perte progressive d'importance. Les traités resteraient, les bâtiments aussi, seule l'idée politique qui les sous-tendrait aurait disparu. Le chancelier allemand Friedrich Merz, porteur d'espoir pour le renouveau de l'Europe quand il a été élu en 2025, semble plus prudent, jouant parfois la carte de la seule Allemagne. Écoutez ce qu'il a dit à Trump. Si vous ne voulez pas de l'Europe, faites au moins de l'Allemagne votre partenaire, a-t-il suggéré au président américain en décembre, alors que la stratégie de sécurité américaine venait d'être publiée. Quand ce document de la diplomatie américaine a été publié en décembre, avec des mots extrêmement agressifs pour l'Europe, qu'a dit le chancelier allemand à Trump, si vous ne voulez pas de l'Europe, faites au moins de l'Allemagne votre partenaire. C'est dingue, hein ? Le président de la CDU, l'Union chrétienne démocrate, dont l'entourage promettait encore il y a quelques mois un grand discours sur l'avenir de l'Europe, n'a toujours pas proposé de vision ni de réflexion conceptuelle. Son enthousiasme initial a été refroidi par l'opposition de la France à l'accord de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur et par les réserves de Paris face à l'hypothèse d'utiliser les actifs russes gelés pour aider l'Ukraine. Vous voyez, manifestement, Berlin et Paris, on a beaucoup de reproches à se faire en ce moment. L'incapacité du président Macron à faire avancer le projet de système de combat aérien du futur a également déçu outre-Rhin. Personne ne semble se soucier sérieusement de l'UE, pourtant seul à vouloir défendre le modèle de vie européen fondé sur la liberté, alerte le quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung, dans une analyse publiée en janvier. Jusqu'à prédire la chute de l'Europe dès l'année prochaine, 2027, sous l'effet de la victoire des partis populistes et eurosceptiques en France et en Pologne. L'UE doit-elle être plus intégrée politiquement? Est-ce qu'elle doit avoir un dirigeant élu au suffrage direct? Être une fédération d'États-nations? Avoir une armée commune? Plus personne en Europe se penche sur ces questions. C'est plutôt le président américain qui donne le ton des débats en Europe, déplore un correspondant d'un journal allemand à Bruxelles, qui craint lui aussi que l'Europe ne périsse par indifférence. Il est dingue cet article. Hein. Alors une piste. Nombre d'analystes défendent l'idée d'un noyau dur d'États européens souhaitant coopérer en matière de sécurité, par exemple. Il faut recréer une communauté européenne de défense, comme en 52, hein, mais pas à 27. L'Europe n'a jamais avancé qu'en format restreint, comme lors de la création de l'euro ou de l'espace Schengen. Depuis sa prise de fonction, le chancelier allemand Friedrich Merz fait la même analyse. En matière de sécurité et de défense, il privilégie le format E3 autour du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, étendu parfois à l'Italie et à la Pologne. Configuration jugée plus efficace qu'un attelage à 27, quitte à mettre en péril la cohésion de l'UE. C'est un truc dont je trouve les médias parlent pas beaucoup, mais certains constatent quand même aujourd'hui l'affaiblissement de, au-delà de l'Union européenne, de l'idée européenne. Je vous lis. Voilà. Firmus écrit « Moi, ce que je reproche à l'Allemagne et à Berlin, c'est de mettre de la confiture de pommes dans les spaghettis bolognaises. Chacun son niveau de reproche. » Alors ça, je ne veux pas le croire. Je ne connais pas bien l'Allemagne ni sa gastronomie, mais la confiture de pommes dans les spaghettis bolognaises, ça, je demande des preuves. Quoi ? Écrit Papa Ours. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Je pense que c'est une invention. Repsioul, le C1 plat belge, ça encore, nous avons de nombreux amis belges dans le chat, s'il te plaît. Adichat s'écrit « J'ai du mal à cerner les volontés de l'Allemagne, purement économiques, quand ils sont un peu l'origine du Mercosur, de favoriser l'achat d'armes américaines et pas européennes à l'Ukraine. Ils sont un contre-courant de ce pourquoi l'Europe a été créée. » Est-ce que c'est pas un peu ça le grand plan de Poutine plus Trump dans le fond, à affaiblir l'Europe jusqu'à nous faire splitter complètement? T'en penses quoi? Kaidou, je pense que c'est juste ce que tu dis. Mais Trump ne le cache pas, ça. Hein. Dans sa feuille de route diplomatique que Washington a publiée en décembre, l'Europe souhaitée, c'est une Europe, ce n'est pas une Europe unie, c'est une Europe vassalisée. Une Europe notamment dont les États seraient dirigés par des partis nationalistes, voilà, qui se soucient comme d'une guigne de l'Union européenne et qui ne voient que les intérêts nationaux. Parce que le géant américain a bien compris que c'était plus simple de négocier indépendamment en position de force avec chacun de ces pays plutôt qu'avec une Union européenne. Ça, c'est transparent pour le coup. Moi, je voudrais savoir pour la confiture de pommes dans les bolognaises, hein, parce que là, on parle de choses, mais je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel. C'est quoi cette histoire de confiture de pommes dans les bolognaises là? Je ne vois pas d'infos. Hein. Attends, je veux en avoir le cœur net. Bolognaise. Confiture de pommes. Je veux qu'on aille au bout du. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Je l'ai pas. Hein. Non. Moi j'ai rien. Hein. J'ai rien là. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui veut nous dresser contre les Allemands, ça. Hein. Hein. Je ne vois rien. Hein. Peut-être Grok qui trouve des trucs un peu particuliers, mais là, je vois. Hein. Non, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est inventé, ça. Ça, c'est de la manipulation. Hein. Donc voilà pour ce papier dans Le Monde. Allez, on va respirer un petit peu, on va s'apaiser un petit peu, puisqu'on parle de sujets quand même qui sont waouh, hein, puisqu'on va parler de Morandini et de CNews. Let's go, on passe à l'actualité en France. Bon, l'actualité des médias, moi, c'est pas forcément... Alors, par la presse écrite, j'aime bien, mais l'actualité de la radio, c'est marrant parce qu'il y a un tropisme dans la presse quotidienne française que j'adore lire. Il y a beaucoup d'articles sur la télé, la radio, il y a très peu... Comparativement, il y a très peu d'articles sur les contenus d'Internet, sur les dernières vidéos YouTube intéressantes, sur les créateurs de contenus qui font un carton en France et à l'étranger. C'est full radio. C'est vraiment... ils ont du mal à basculer, quoi. Alors que eux, les consommateurs, eux, enfin les citoyens, eux, ils ont basculé dans leur consommation de divertissement et d'information. Hein. Les Français... s'informent de plus en plus sur les plateformes, sur les réseaux, et consomment en matière de divertissement, y compris des gens qui ont plus de 50 ans, de plus en plus de divertissement consommé directement sur YouTube qu'ils consomment sur la télévision. Mais dans la presse que je lis, il y a des articles sans arrêt sur la radio, les audiences des radios, sur la dernière émission de machin, sur oh, le prime du bidule n'a pas marché hier. Bon, ça, c'est marrant, ce basculement n'a pas eu lieu, c'est un truc que je m'interroge un petit peu. Donc, on a beaucoup d'articles sur la télé et la radio. En général, je m'en fous, mais bon, là, ça va au-delà de l'actualité de la télé. C'est le fait que Jean-Marc Morandini, condamné dans une affaire, parce qu'il est poursuivi dans plusieurs affaires, pour la troisième fois, donc condamné en première instance, condamné en appel et récemment condamné par la Cour de cassation dans une affaire de corruption de mineurs, 2 ans de prison avec sursis, eh bien, Morandini reste à l'antenne sur CNews. Et Le Parisien nous dit ce matin que même à CNews, ça fait grincer des dents. Le maintien de Morandini à l'antenne fait grincer des dents chez CNews. La condamnation de l'animateur à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs a été donc validée par la Cour de cassation. Hein, pas de quoi faire changer d'avis la direction de la chaîne. L'info qui étonne un peu... Benjamin Meffre et Benoît Dragon, c'est mais comment la direction de CNews peut laisser Morandini à l'antenne alors que même dans le passé, elle avait justifié son maintien par la présomption d'innocence, alors qu'il est définitivement condamné par la Cour de casse. Let's go. Je n'en pense rien. Qui dit ça? Je n'en pense rien. Si j'en pensais quelque chose, je ne le dirais pas. Je ne sais pas qui dit ça. Une fois n'est pas coutume, ne comptez pas sur Gilles William Goldnadel, habitué des plateaux de Pascal Pro pour commenter l'actualité judiciaire. L'avocat qui a son rond de serviette sur CNews, donc manifestement, je connais pas trop, mais c'est un intervenant régulier de la chaîne, évoque son droit de réserve quand on lui demande son avis sur le choix de la chaîne de maintenir à l'antenne Jean-Marc Morandini après la validation par la Cour de cassation de sa condamnation à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour corruption de mineurs. Alors, Gilles William Goldnadel, je ne connais pas trop, mais ça me dit quelque chose. Laissez-moi vérifier un truc. Vous le connaissez? Ça me dit quelque chose. Alors lui, il dit, moi, je ne parle pas du sujet. Ah oui, je sais, ok. Je sais pourquoi ça me dit quelque chose. Le réseau du chétan, le réseau du démon X. Donc, monsieur Goldnadel, 15 novembre 2025, voilà, après... encore un compte merveilleux sur X qui me clip quand j'explique que le RN est parti à l'extrême droite. Et M. Goldnadel, donc qui est, je l'apprends, avocat et manifestement débatteur sur CNews, écrit « Propagande de sévices publics ».
Jeu de mots. Jeu de mots.
Sévices publics de caniveau. Pardon, je voulais dire de bas niveau. Ah oui, c'est double jeu de mots. Décérébration de la jeunesse. Sur Twitch, il n'y a pas que des jeunes. Hein. Payé avec notre argent. Donc l'argent de Goldnadel, qui doit, à mon avis, est sub. Donc je le remercie, puisque c'est avec son argent. Donc je pense qu'il doit soutenir la chaîne. Qui ne situe pas le parti antisémite, avec des majuscules, le fameux PA. Ah non, PA, c'est autre chose sur Twitch. Mais bon, peu importe. Le fameux parti antisémite, jamais critiqué à l'extrême gauche. Je savais que ce nom me disait quelque chose. Okay. Donc là par contre, c'est intéressant parce que sur la question de Morandini, il évoque son droit de réserve. Mais là, pas trop par contre. Hein. Je suis enchanté, monsieur l'avocat. Donc, je continue l'article. Du Parisien qui revient sur la condamnation de Morandini qui s'accompagne d'une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs, tu m'étonnes, et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. L'arrêt de la Cour de cassation est particulièrement sévère car il estimait qu'il n'y a même pas de manière à examen. T'y vas, mon Joe?
Non, ouais,
ça va les batteries? Ça charge... Bah oui, ils sont énormes, donc ça charge doucement.
Bah, en gros, là, j'ai appelé le musée pour dire trouvez-nous une salle où je peux charger pendant une heure.
Oui, peur, sinon tu... Ouais. Elles sont à combien, là, 20%?
50.
Ah, 50. Oh, d'ici 14h, ça va cracher le feu. Non, mais des prises, il y en a au Grand Palais.
T'inquiète,
c'est nos batteries pour le stream de tout à l'heure. J'avais oublié de les mettre en charge. Alors, donc, l'arrêt de la Cour de cassation est particulièrement sévère, car il estimait qu'il n'y a même pas de matière à examen. Morandini est désormais condamné définitivement. Je prends acte de la décision de CNews de le maintenir à l'antenne. Eux seuls peuvent apprécier quelles sont les retombées en termes d'image. Réagit auprès de notre journal un autre avocat, qui est le sénateur LR Francis Piner, avocat de l'association La Voix de l'Enfant, partie civile dans l'affaire Morandini. Donc là, vous avez Francis Piner, qui est un avocat, qui est toujours élu de droite, mais qui a été élu aussi à Paris, je crois, à la mairie du 16e, à une époque, je crois, ou du 8, je ne sais plus, peut-être du 16. Et donc, lui, c'est l'avocat d'une association de protection des enfants, et lui, en gros, il ne comprend pas, quoi. Donc, ça nous fait citer, on a cité deux avocats, déjà. Ce maintien à l'antenne, donc, eh bien, on l'assume complètement, dit la direction de Canal+, a déclaré jeudi matin le directeur général de Canal+, France, Gérald Brice-Viret, devant l'association des journalistes médias. Il est à l'antenne, il le restera. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair. A-t-il martelé quelques minutes avant que son protégé ne lance en direct sa quotidienne sur la chaîne Info. Merci MMG. Parmi ses justifications, le fait que l'animateur envisage de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, hein, donc, dans cette affaire, et donc du coup, ça lui permet de dire bah, non, je ne suis pas définitivement condamné malgré ma condamnation en première instance, en appel, en cours de cassation, puisque vous allez voir ce que vous allez voir, je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Autre argument qu'on a évoqué tout à l'heure de la direction de Canal+, hein, on le maintient à l'antenne parce que, et je cite, les jeunes stagiaires de l'entreprise ne se trouvent pas au même étage. Ah bah ça va alors. Et le Parisien nous expliquait qu'en juin dernier, des lycéens avaient été installés en catastrophe au sous-sol de l'entreprise pour éviter toute rencontre avec le présentateur. Ok. En interne, CNews est plus que divisé sur le cas Morandini. Il y a beaucoup de mécontentement au sein de la chaîne même, hein, décrypte un visage de l'antenne, hein, manifestement qui parle sous couvert d'anonymat et qui poursuit tous ceux qui se montrent très virulents tout au long de l'année envers les décisions de justice et leur application, qui étaient intransigeants envers Pierre Palmade, pensent de même pour Morandini. Chez d'autres, la colère monte. On parle de gens qui travaillent à CNews. Hein. C'est indéfendable et honteux, c'était l'occasion de s'en débarrasser, comme la direction de Canal l'avait promis en cas de condamnation définitive il y a 10 ans. Il y avait eu un communiqué qui disait ça. En termes d'image, c'est dévastateur pour nous. Hein, comment va-t-on traiter certains thèmes désormais à l'antenne? On fait un formidable cadeau à nos détracteurs. C'est vrai que pour l'image de la chaîne, c'est une catastrophe. Enfin, la preuve, l'avocat qu'on a cité tout à l'heure, qui est souvent, il refuse de commenter cette affaire. Alors que parfois, il est quand même bien bavard. On fait un formidable cadeau à nos détracteurs. À la fin, c'est l'impact de cette décision sur le public qui risque de faire la différence, notamment sur les Français les plus à cheval sur la sécurité. Hein. Le cœur de cible de CNews dans le groupe Canal+, on espère qu'un sondage d'opinion sera commandé sur le sujet. Dans 2 semaines, c'est oublié, assure un interlocuteur qui rappelle les bonnes audiences de la tranche Info Morandini Live. À la fin, c'est le public qui décide. Hein. Et il se fiche de cette affaire. Mercredi, il était en tête des chaînes Info. Défend cet ami de Jean-Marc. Au sein de la galaxie Bolloré, le cas Morandini divise. Au moment où sa possible arrivée sur Europe 1 était dans l'air en fin de saison dernière, certaines figures du groupe sont montées au créneau contre ce scénario. Vincent Bolloré a fini par trancher en leur faveur. Donc, Morandini n'est pas revenu sur Europe 1. À titre personnel, je suis consterné, mais c'est la décision de la boîte. Si on n'est pas content, on s'en va. Hein, résume Blasé, un dernier interlocuteur qui rappelle le lien qui unit de longue date Vincent Bolloré et Jean-Marc Morandini. Puisque Morandini a été le premier présentateur de renom à rejoindre D8 à l'époque, Direct 8, en 2006, alors que tout le monde crachait au visage de sa chaîne, grâce à laquelle Bolloré a fini par mettre la fin sur le groupe Canal+. En 2016, l'annonce de son arrivée, donc Morandini à CNews, a provoqué un tollé, un mois de grève dans la chaîne qui s'appelait iTélé à l'époque. Devenu CNews, hein, un mois de grève des salariés de la chaîne contre l'arrivée de Morandini, et Bolloré a gagné ce bras de fer puisqu'il a dit « je m'en fous » et la plupart des journalistes de cette chaîne sont partis à l'époque. Une solide fidélité unit désormais les deux hommes. Plus les commentateurs vont demander la tête de Morandini, moins il la leur donnera, observe infidèle. Pour qui l'animateur, par ailleurs, a le droit de se réinsérer. En attendant, les salariés espèrent une mobilisation générale. Face à cette réalité, nous appelons aujourd'hui les salariés du groupe ainsi que les talents que nous soutenons et les sportifs dont nous racontons les exploits sur nos antennes depuis 41 ans à faire entendre leur voix face à une situation susceptible de heurter leur valeur ou leur conscience, à rappeler le syndicat du groupe Canal+, qui s'appelle Plus Libre. Sans trop y croire, en 2016, lors de cette longue grève à iTélé que j'évoquais, rares étaient les voix extérieures au groupe à protester contre l'arrivée de Morandini. Voilà. Voilà cette histoire qui est assez claire, en vrai, pas très compliquée. Camille Lobé, les consommateurs de CNews n'apprendront pas cette info puisqu'ils s'abreuvent uniquement sur cette chaîne. Bon, ça arrive, parfois on s'enferme dans un média, oui, et cette dernière ne va pas la mettre en gros titre. Oui, je serais surpris effectivement que CNews en fasse la une de ces journaux. Oui. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter, je crois. Je vous lis. Quand on voit comment MMG écrit. MMG, qui est un pilier de cette chaîne, qui est quand même très informé, qui a une grosse consommation des médias. Et moi, c'est une image que j'ai pas vue, mais je trouve ça intéressant ce que tu as écrit. Quand on voit comment Pascal Praud a donné la main à Jean-Marc Morandini hier, donc moi, je n'ai pas vu cette image, c'était dans l'indifférence et le mépris le plus total pour la justice. Bon sport, beginner. Je vois un MMG président dans le chat. De Soul Caribou, quand même. C'est un. Alors, Zora m'estime que c'est un bon test pour CNews pour tester la fidélité absolue de leur cercle d'influence. Ok. Alors, médias toujours. Je viens de vous dire que je parle assez peu de l'actualité des médias traditionnels, dont je suis surpris qu'il y a toujours autant d'articles sur le sujet, d'ailleurs, dans les journaux que je lis. Hein. Moi, je pense qu'il devrait y avoir aujourd'hui, au regard du changement de consommation des Français en matière d'information et de divertissement, il devrait y avoir plus d'articles sur YouTube, sur les nouvelles vidéos, sur les nouveaux créateurs de contenu, sur pourquoi pas aussi ce que font les gens sur Twitch, sur Insta, sur TikTok, une nouvelle tendance en la matière, et un peu moins sur la radio et la télé. Voilà. Comme le dit Pandarou, il y a un changement de paradigme en cours, mais je trouve que les journaux que j'aime lire, je trouve, ne l'ont pas intégré encore. Voilà. Oui, sur le Poker IU, par exemple. Mais donc, voilà. Donc là, on a beaucoup d'articles sur la radio, sur la télé, et donc là, j'en ai un autre, alors au début, qui me fait saliver. Vraiment, je me dis... Il faut que je change de sujet dans le sommaire. La régalade, quoi. Parce que là, c'est tout ce qui m'intéresse. Un groupe que je connais bien, France Télévisions, j'ai travaillé 17 ans, lance sa plus importante réorganisation depuis 20 ans. Bon, bah... tu vois, le titre, il claque, quoi. France Télévisions, donc c'est un énorme groupe audiovisuel, lance sa plus importante réorganisation depuis 20 ans. Alors là, évidemment, je regarde, quoi. Et ensuite... je vois, face à l'érosion de la télévision linéaire que je viens d'évoquer, le groupe public va placer le numérique au cœur de ses activités. Va placer le numérique au cœur de ses activités. Alors là, je dis, ça, je vais le lire. Hein. Je vais le lire et je vais le proposer aux viewers demain. Quoi. Parce que ça, j'ai lu ça hier soir. Bon, déjà, on a échappé à va placer le digital au cœur de ses activités. Déjà, c'est numérique. Alors, et après, j'ai été très déçu. Parce que j'ai lu l'article et, bah, alors, ou je suis complètement con et j'ai rien compris, où je n'ai vu aucune annonce concrète, vraiment, quoi. Mais peut-être que je suis de mauvaise foi, lisons l'article, j'étais un peu déçu, quoi. Mais peut-être parce que aussi c'est un peu secret, peut-être que les annonces sont à venir. Mais voilà, j'étais déçu parce que je pensais découvrir, en fait, quelle stratégie allait se mettre en place, justement, pour que France Télévisions se mette en ordre de bataille pour aller conquérir les nouveaux espaces, quoi. Alors, lisons. Une véritable révolution attend les équipes de France Télévisions. J'engagerai dès ce mois-ci la plus importante réorganisation du groupe depuis 20 ans, a annoncé jeudi matin, c'est tout frais, Delphine Ernotte, la présidente, lors des vœux aux salariés. Celle qui mettra le numérique au cœur de nos activités. Elle fera du streaming et de notre présence sur les médias sociaux la part principale de notre activité. Donc je ralentis parce que on a la patronne du groupe qui dit que la part principale de l'activité de France Télévisions, ça va devenir les médias sociaux et le streaming. Alors là, je fais, alors là ! Et là, je me dis, mais qu'est-ce que va me dire l'article, tu vois ? Ben après, j'ai été déçu. Un chantier immense dont la réflexion aura duré 3 ans avant d'aboutir. Alors en plus, l'article me dit que ça fait 3 ans que ça réfléchit. Donc je me dis, bon, 3 ans, voilà les annonces dans l'article. 3 ans. Donc, j'étais tout émoustillé, hein, hier soir. J'étais tout... J'étais ouh, ouh. Je crois que j'ai repris un café. Alors, donc France Télévisions veut devenir un média nativement numérique. Bon, ça on a compris. Et va se réorganiser autour d'un modèle streaming first. Depuis le mois de septembre, les managers ont multiplié les réunions. Affiné le projet en vue de sa prochaine mise sur orbite. Donc là, tu vois, ça tease. France Télévisions veut devenir... Bon, ça, je suis en train de dire la même phrase. Cette restructuration d'ampleur devrait concerner 60% des salariés. Le truc va toucher 60% des salariés de France Télévisions. Donc, mais franchement, mais je lis l'article, je suis vraiment en mode, mais c'est dingue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça m'intéresse, tu vois, moi qui ai pris un peu ce virage. Vite fait, quoi. Donc, cette restauration d'ampleur qui devrait concerner 60% des salariés part d'un constat lucide. Que cela plaise ou non, la télévision linéaire ne sera plus un usage dominant d'ici 2030. Lâche Stéphane Sidbon Gomez, qui est le numéro 2 de France Télévisions, bon, ça, on le sait tous. Notre organisation a été pensée à l'origine pour linéaire. Bon, ça, oui. Le digital, ah zut. Merci Lulu Zark. Ah, c'est, jusqu'ici, c'était un sans faute. Merci Koviak. Merci Ombiello. Le digital était simplement considéré comme l'une de ses extensions. Oui, j'ai vu Neo Passenger, j'ai vu hier, c'était drôle. C'est pourtant bien sur le terrain du streaming que s'est déplacé le centre de la gravité de l'industrie. Et c'est bien là que se joue son avenir. Bon, là, on est toujours sur le constat, on connaît. Netflix veut racheter Warner, Paramount aussi, qui veut devenir un géant du secteur. Il n'y a plus de doute possible sur l'endroit où se déroule la bataille, insiste le numéro 2 de France Télévisions. Bon. On aurait pu leur dire il y a longtemps déjà, mais bon, ok. Donc le constat, il est fait. Ok, super. Plutôt que de subir la disruption, le groupe audiovisuel public veut s'employer à la dompter. Alors, pardon, je suis impatient, mais oui, mais alors comment qu'on fait ? Au printemps dernier, dans son projet de candidature pour un troisième mandat à la présidence de France Télévisions, Delphine Arnault avait déjà souligné qu'elle souhaitait donner la priorité à la plateforme France.tv et repenser l'organisation du groupe public autour de cette dernière. Ok, ok. Mais pardon, mais qu'est-ce que vous allez faire ? La motivation première de cette réorganisation est clairement de mettre l'expertise numérique au cœur de tout. Nous devons devenir un éditeur aussi bien... Je ne sais pas qui m'appelle. Vous, je ne sais pas, quand je ne connais pas le numéro, je ne décroche pas. La motivation première de cette organisation est clairement de mettre l'expertise numérique au cœur de tout. Nous devons devenir un éditeur aussi bien sur linéaire que sur le web, le World Wide Web, l'Internet, pardon, ou sur les réseaux sociaux. Nos contenus doivent être présents partout, insiste le dirigeant. Oui, bon, ok, on a bien compris, mais... En clair à France Télévisions, ah, ça y est, c'est bien concret, un programme doit pouvoir être pensé et adapté dès sa conception à tous les supports. Ah bah ça, ah oui, ça fait des années que je dis. Aujourd'hui, un programme télé ou même radio, il devrait être conçu nativement dès le début pour ne pas être un programme télé ou un programme radio, mais un programme qui doit aller sur toutes les plateformes en même temps. Mais ça, c'est pas très original, quoi. Cette logique va transformer en profondeur l'architecture interne. Au lieu d'avoir une direction du numérique fonctionnant en silo, comme c'est le cas depuis une quinzaine d'années, l'ambition est d'en faire un levier de transformation intégré à l'ensemble des services. Ainsi, les collaborateurs dédiés au numérique ont vocation à se répartir au sein des différentes directions du groupe. Il y a Matt Delour qui est très méchant qui dit « France Télévisions vient de découvrir l'existence du web ». Preuve que la tech et le digital sont amenés à jouer un rôle central et deviennent stratégiques, France Télévisions veut remonter au niveau du comité exécutif deux fonctions qui nous semblent essentielles, l'une consacrée au produit et à l'expérience utilisateur et l'autre dédiée à la question de l'IA. Nous allons créer une direction IA totalement autonome, annonce Stéphane Sidbon Gomez. Il faut prendre un temps d'avance sur l'usage de cette technologie qui sera l'un des fils rouges du mandat de Delphine Arnault. D'ici 2030, l'IRA, pardon, pas, non, pas, la, pas l'armée révolutionnaire irlandaise, pas l'IRA, l'IA aura tout transformé au sein du groupe. Les métiers, les pratiques, les contenus, nous voulons faire de France Télévisions un pionnier de l'IA responsable. Ces deux fonctions seront directement rattachées à la présidence du groupe, comme l'était la direction marketing. La deuxième raison au changement annoncé tient au maintien de la capacité du service public à remplir ses missions, puisqu'en 2018, France Télévisions avait renoncé à un pilotage de l'entreprise par chaîne au profit de directions thématiques transversales autour de la fiction, du divertissement, du documentaire, du sport et de l'information. au moment où l'audiovisuel public est questionné aujourd'hui, hein, ce n'est pas tant le genre de programme qui importe, mais les missions éditoriales qu'on doit remplir. Toutes les équipes éditoriales vont être réorganisées autour de ces grandes missions. Alors moi j'ai du mal à comprendre le propos et je vois pas ce qui se profile, mais je pense que je suis un peu bébête et j'espère que quelqu'un dans le chat va m'expliquer un petit peu la strate. Parce qu'à un moment, on a besoin de vos lumières. Là. Outre une direction générale adjointe de la gestion de la production et des moyens qui existent déjà, le futur comité exécutif intégrera une direction générale adjointe des offres et de la stratégie éditoriale nouvellement créée. Celle-ci regroupera l'ensemble des contenus et s'articulera autour des 8 directions éditoriales, les savoirs, la création, les régions, le cinéma, les sports, les événements, les loisirs, la vie quotidienne, les jeunes publics. Enfin, l'information sera en charge de l'ensemble de l'offre des magazines d'actualité issus de la rédaction des programmes. Nous unifions le pilotage de l'information sous une même responsabilité, une même exigence pour plus de clarté éditoriale. Donc c'est toujours la direction qui parle. Ce recentrage global permettra de regrouper les forces. Donc demain, quoi qu'il arrive, même si les budgets baissent, je lis un article qui est passionnant. T'as tout ?
Je t'avais juste la boussette. La maman, je l'ai, je suis nickel. Mais
bien sûr. Je suis là à 13h.
T'inquiète.
Petite story en arrivant, tout roule.
Joe,
il nous met l'eau à la bouche. Hein. Dimanche soir, ici, ça va être une fête. Ça va être pumped up. Hein. À tout à l'heure, Joe. 14h, live, Grand Palais, 200 ans du Figaro. Donc, même si les budgets baissent, France Télévisions pourra continuer à assurer ses missions essentielles, indique le dirigeant. Enfin, c'est vrai que le budget de France Télévisions ne cesse de baisser, année après année. Alors que le groupe voit sa dotation budgétaire se réduire année après année, la nouvelle réorganisation devrait permettre de générer des économies.
Ok.
À ce stade, le budget 2026 prévoit de réduire les effectifs de 112 collaborateurs, même si ce n'est pas la vocation première de la réorganisation. Toutes les directions seront concernées à l'exception des fonctions tech et numériques qui intégreront de nouvelles compétences en interne data, IA, produit, design de la plateforme. Le projet a été transmis aux différentes instances représentatives du personnel. Il sera présenté la semaine prochaine, mercredi 21 janvier, au comité social et économique central. Sa mise en œuvre opérationnelle interviendra après l'avis de ce dernier à l'horizon du mois de mai. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la strate. Alors, je ne sais pas si c'est l'interview qui est mal faite. Je ne sais pas si c'est l'article qui est mal gaulé. Je n'ai rien compris. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer ? S'il vous plaît. Vos lumières. C'est quoi la strate ? Parce qu'au début de l'article, tu es en mode « pop, 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 pop ». C'est clair comme du brouillard, me dit Pandarou. Alors, feu de l'artifice, comme celui qu'on aura peut-être dans ce studio dimanche soir à 20h avec Avamine, écrit, cet article laisse sous-entendre une restructuration, une utilisation maladroite de l'IA dans un domaine non maîtrisé par France Télévisions, les réseaux sociaux, et laisse présager un joli plan de licence et des pertes et des perles et bourdes sur Internet. Pardon pour je fourche. Alors, remake, à ce que j'ai compris, ils vont embaucher une fille qui s'appelle Lia, L-Y-A, qui va se connecter à Internet pour télécharger les émissions sur YouTube. Voilà mon analyse. Alors, Marie Bulle dit, je pense que le journaliste a lui-même du mal à comprendre, et du coup, ça fait effectivement un papier un peu flou.
Merde.
Florian dit, mais pourquoi dire « on se voit la même chose » Oui, bah moi aussi, j'ai l'impression de relire. En fait, j'ai l'impression, en lisant l'article, que je lisais les trois premières lignes, mais « on se voit ». En gros, France TV, me dit Vontside, annonce une restructuration managériale et ça appelle le renouveau numérique. Ouais. Ah, et Marion qui dit, bah oui, mais dans ce cas, si tu comprends pas, tu publies pas, quoi. Ah ouais, c'est un peu décevant quoi. Z Triskel, la strat c'est blablabla, on n'est pas si en retard que ça, et blablabla, dans 50 ans on sera pas trop en retard. Bon. Alors, moi il y a quelques années, vous savez, moi je balance pas trop des noms, tout ça, je suis pas trop dans le clash, pas trop ma philosophie. Mais il y a quelques années, J'ai eu un rendez-vous avec un grand dirigeant de l'audiovisuel français qui m'a dit il faut qu'on mette le paquet sur Twitch et vous allez voir ce que vous allez voir et on va aller chercher des budgets. Voilà. On va enlever des budgets à ce qu'on fait traditionnellement production d'émissions télé. Voilà. C'était il y a des années, hein. C'était il y a longtemps. Hein. Et on va mettre le paquet sur Twitch et on va faire une putain de chaîne Twitch avec des programmes de fou, quoi. Voilà. C'était enthousiasmant, quoi. C'était il y a, je te parle de ça, c'était il y a genre 4 ans, quoi. Devinez ce qui s'est passé. Non, c'était pas le live, c'était il y a 4 ans. Devinez ce qui s'est passé. Rien. Il n'y a pas eu les investissements, il n'y a pas eu les émissions. Il n'y a pas eu. Mais peut-être que c'est en train d'arriver. Peut-être que c'est en train d'arriver. Mais c'est bon. Après, c'est compliqué, hein, de prendre ce virage. C'est très compliqué. Hier, on avait, à la maison de la radio, on avait la directrice adjointe de la rédaction des Échos qui expliquait comment les Échos avaient tenté, et plutôt réussi, selon elle, prendre le virage avec les Échos présents sur les réseaux, les Échos avec une chaîne YouTube, etc. Et elle semblait dire que ce journal, bon, c'est un journal que les Échos, tout le monde pas, il n'est pas les Échos, hein, c'est l'actualité économique et financière, mais avait plutôt bien pris ce virage, quoi. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. En vrai, c'est pas facile. Oui, j'ai vu. Oui, tout a raison. Oui, The King Bob, ces mêmes Échos dont les salariés ont voté à 85% la grève. Oui. Alors, hier soir, je veux télécharger les Échos, parce qu'en général, vers 22h, 23h, j'ai mes journaux. Hein. Comme quand t'es abonné, tu télécharges les journaux la veille au soir, quoi. Vers 22, 23h, t'as les journaux. Et je lis tout. Et puis, j'arrive pas à voir les Échos. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et je me dis, je l'aurai demain matin, il y a un bug. Et ce matin, pas les Échos. Et du coup, je suis allé voir sur le compte X des Échos, il y avait un communiqué comme quoi, effectivement, il y a un mouvement de grève et que le journal ne paraissait pas. Effectivement. Mouvement de grève parce que le communiqué des syndicats disait que les revendications salariales des journalistes n'avaient pas été entendues par la direction. Ah, quelqu'un sonne. C'est bizarre, ça. C'est peut-être le SWAT. C'est bizarre parce que personne n'a l'adresse de ce studio. Ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Je vais appeler Joe quand même. J'ai un SMS ou pas ? On ne sait jamais, hein, si c'est la police de l'immigration. Là, aux États-Unis, c'est des fadas, eux. Donc ça ouvre pas. Moi, je n'ouvre pas. Hein. Il est où, Joe ? Je vais l'appeler. Je pense pas que ce soit lui. Joe. Il a les clés de toute façon, Joe. T'as pas un petit loquet ? Ouais, mais j'ouvre pas, m'en fous, moi. Je reçois pas de courrier ici, pas de colis. Oui. C'est toi qui sonne en bas de l'appart ?
Non.
Quelqu'un sonne. Ouais, c'est... non, mais je préfère t'appeler, quelqu'un qui sonne à l'interphone.
Ouais, non, je suis dans le taxi, là, moi j'arrive au
grand palais. Ouais, bon, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci. Non, bizarre, hein. T'as pas une caméra ? Non, j'ai pas de caméra. Dans le studio, ouais, j'en ai plein. c'est peut-être recensement ? C'est pas mon logement en plus ici. Quelqu'un a dû se tromper ? Oui, on va dire ça. Typique, le livreur qui sonne partout pour monter. Ouais, surtout, ça répond pas parce que j'ai un. Comment on appelle ça ? Cette machine moderne, c'est qui permet de parler aux gens qui sont en bas là. Attends, c'est un truc ultra, moi j'ai ça dans mon immeuble ultra moderne là. T'es dans ton appartement, tu vois, quelqu'un est en bas, il sonne et tu. L'interphone. Ouais. Incroyable. J'ai ça dans ici là. C'est fou, hein. Comment ça, pas très moderne l'interphone, diffusion? Oh bah si quand même. Oh bah attends, ça se saurait quand même. C'est un truc assez nouveau, non? C'est pas j'ai c'est pas au dernier CES de Las Vegas que qu'ils ont montré ça? Moi je suis un peu en pointe. Hein, sur la tech. Comme certains groupes audiovisuels. Donc, alors maintenant, on passe un petit peu au football. Hein, voilà, pour finir, en beauté. Voilà, hop, voilà. Avec deux actus. Le mondial de football aux États-Unis, bon, qui m'a l'air bien compliqué. Hein, et puis la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avec la finale dimanche. Voilà. On passe. Quelle heure il est? Midi. Quoi ça, on cut à midi. J'ai le temps de rentrer à la maison, de me faire beau. Je pars à. Ouais, c'est pas mal. Comment ça, Trump a gagné la Coupe du Monde? Bah non, justement. Ça se passe pas bien. Le Parisien. Le mondial aux États-Unis va-t-il tourner au fiasco? À 5 mois du début de l'épreuve, putain, c'est dans pas longtemps en vrai. La liste des pays dont les ressortissants sont interdits de séjour ne cesse de s'allonger et les appels au boycott se multiplient. Merci, Clama Coquine. Le timing ne pouvait pas plus mal tomber. À 6 mois. Bah, c'est 5 ou c'est 6 mois? À 5 mois du début de l'épreuve, à 6 mois du début de l'épreuve. Bordel. Non, le problème, c'est que l'article, dans les journaux, la personne qui écrit le titre n'est pas toujours la personne qui écrit l'article. On l'a déjà vu ici sur des sujets assez intéressants. Voilà. Parfois, tu donnes une interview à un journaliste, et surtout avec un article, bon, bah, peu importe, mais le titre est claqué au sol, tu appelles le journaliste en disant, dis donc. Ton titre, là, il pue la merde. Ah oui, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Tu comprends? C'est pas ma faute. Ouais, mais enfin, c'est quand même ton article. Et le titre, c'est ce qui va donner envie de le lire, enfin, qui va donner une indication. Ouais, mais j'y peux rien. D'accord. Bon, ça, c'est comme ça. Donc là, effectivement, bon, 5-6 mois, hein, on s'en fout. Hein. On y va. À 6 mois, bon, à 5-6 mois. À 5-6 mois de la finale du mondial, prévue le 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey, le département d'État des États-Unis a annoncé mercredi ne plus délivrer aucun visa, jusqu'à nouvel ordre, aux ressortissants de 75 nouveaux pays. Le département des États-Unis a annoncé mercredi ne délivrer plus aucun visa, jusqu'à nouvel ordre. Ah, t'as raison! C'est à 6 mois de la finale. Et c'est à 5 mois de la compétition. Ça n'est pas le Parisien qui se mélange les pinceaux. C'est moi qui ne sais pas lire. Merci le chat. Mea culpa. Donc, aucun visa aux ressortissants de 75 nouveaux pays. Parmi les nationalités visées figurent de nombreux pays qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est génial. Le Brésil, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. L'Uruguay, la Colombie. Oui, Louis Baudin, tu as raison, le journal le précise. La Seleção, donc les Brésiliens, sans ses fans habillés de jaune dans les tribunes, devant l'émoi provoqué par ce nouveau tour de vis, les services de l'immigration ont dû préciser que cette interdiction de visa ne concernait pas les, ne concernerait pas les séjours de tourisme, de court séjour. Voilà. Attention. Hein. Et ce lié au business, mais seulement les visas d'immigration. Ce qui est suspendu, c'est tous les visas d'immigration pour 75 pays d'immigration. Alors, notamment du Brésil. Les supporters, normalement des équipes nationales, détenteurs d'un billet, pourront donc toujours a priori continuer de passer par le FIFA Pass, ce coup-fil qui permet de voir son dossier examiné en priorité par les services américains de l'immigration. J'apprends, je découvre qu'il y a un FIFA Pass quand même. FIFA Pass, FA Pass. Désolé. Mais l'annonce fait tâche quand même, alors que les États-Unis s'apprêtent à accueillir le monde entier dans à peine 5 mois. L'image du pays s'est subitement dégradée ces dernières semaines depuis que les États-Unis ont commencé à faire cavalier seul sur de nombreux sujets. Ah ouais? Se fâchant avec l'ensemble de la planète et refermant d'un coup les frontières. Une vingtaine de pays. Alors les 75 pays supplémentaire où il y a zéro visa d'immigration. Mais déjà, à ce jour, il y a une vingtaine de pays, dont l'Iran et Haïti, qui sont des pays qualifiés pour le mondial, qui ont été inclus dans un travel ban pour ces pays. Hein. Cette vingtaine de pays, il n'y aura pas de visa pour les fans de foot, même de tourisme. Walou, nada, Kutchi, rien. Vous venez pas. Même pas pour le mondial. Bon, ça, on en avait déjà parlé. D'autres nations, comme le Sénégal, qui sera adversaire de la France au premier tour, par exemple, et la Côte d'Ivoire, seront scrutées de près. Hein, et les autorisations délivrées au compte-gouttes. Vous ne verrez pas beaucoup de supporters, a priori, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Hein, genre, ils seront deux dans le stade. Les États-Unis accusent les ressortissants de ces pays d'être trop nombreux à rester sur le territoire américain après que le visa de tourisme a expiré. Ils restent après. Pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Algérie, les visas de tourisme ne seront possibles qu'à condition de verser une somme comprise entre 5 000 et 15 000 $ qui serait rendue après la sortie du territoire américain. Mais qui fait ça, demande Clem Kidam. Eh ben les États-Unis. La question des frontières n'est pas la seule à jeter une lumière crue sur un pays qui n'avait pas habitué à cela. Le climat social américain est anxiogène. Les rues de plusieurs grandes villes ont vu arriver les policiers de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, oh, bon, c'est la police de l'immigration, hein. Chargé d'interpeller les personnes en situation irrégulière dans une atmosphère très tendue avec une partie de la population. Vous connaissez cette actualité. La semaine dernière, une Américaine de 37 ans a été tuée de 3 balles à bout portant par un membre de cette police très décrié, notamment lors de manifestations d'opposants. On a passé du temps sur la mort de cette femme. Les États-Unis ont perdu de leur pouvoir d'attraction. Selon une étude du Conseil mondial du voyage et du tourisme, c'est le seul pays au monde a enregistré une baisse des dépenses des visiteurs internationaux en 2025. La raison, selon cette étude, plusieurs initiatives de l'administration Trump qui rendent l'entrée sur le territoire américain plus difficile ou plus coûteuse pour les voyageurs étrangers. Les États-Unis comptent pourtant sur l'événement le plus suivi au monde pour relancer son industrie du tourisme. L'afflux de visiteurs est censé normalement générer environ 30 milliards de dollars de retombées économiques et créer 185 000 emplois. Faut-il encore s'attendre en juin à un tel enthousiasme et à un raz-de-marée de fans de foot? L'un des sujets qu'on a évoqué ici aussi, c'est le record de prix. Jamais les billets d'une Coupe du Monde ont été vendus aussi chers, malgré les engagements des États-Unis quand ils étaient candidats à l'organisation de l'événement auprès de la FIFA. Ils s'étaient engagés par écrit à proposer des tickets d'un prix raisonnable et en fait les prix sont délirants, quoi. Alors, les prix pour le sport sont délirants aux États-Unis, hein, pour les matchs de basket, les matchs de... Comment ça s'appelle là ? C'est la batte, là. Merde. De baseball ? Mais le problème, c'est que les États-Unis s'étaient engagés auprès de la FIFA à proposer des billets pas chers, justement. Voilà, ils ont menti, au final. Des mouvements appelant au boycott de l'épreuve ont grossi ces derniers jours. Le hashtag Boycott World Cup a été l'un des plus partagés la semaine dernière sur le réseau social X. Les témoignages de fans de foot disent renoncer à ce voyage ont été nombreux. Par exemple, vous avez un diplomate libanais qui s'appelle Mohamed Safa qui dit « J'annule ma demande de billet. La FIFA doit comprendre que le foot ne peut pas être politisé. La Coupe du Monde ne peut pas être mise entre les mains d'une police qui tue des innocents dans la rue. Les États-Unis ne sont pas un endroit sûr. » Les deux dernières Coupes du Monde organisées en Russie et au Qatar avaient, elles aussi, subi des campagnes de boycott. Hein. La FIFA s'imaginait-elle, lors de l'attribution de l'épreuve aux États-Unis en 2018, qu'elle devrait une nouvelle fois faire face à de tels mouvements de protestation. L'instance surfe pourtant sur le succès. Elle a annoncé mercredi que 500 millions de demandes de billets avaient été effectuées depuis un mois et l'ouverture de la phase de vente de tirage de sections aléatoires. Donc il les appelle au boycott. Mais du côté de la FIFA, on dit, ben, nous les billets, on les vend, quoi. Le boycott annoncé n'affectera donc sans doute qu'à la marge la fréquentation des stades et le succès économique d'une épreuve qui va battre des records. C'était déjà le cas pour le Qatar. Vous vous souvenez, il y avait des appels au boycott au Qatar. Mais ça n'avait pas impacté au final le mondial. Même si ça avait permis de parler de tous ces sujets, notamment des droits de l'homme, des femmes, des minorités dans ce pays et les conditions dans lesquelles les stades étaient construits et la question environnementale. Voilà. Donc au moins ça avait provoqué ce débat. Vous vous en souvenez. Le boycott annoncé n'affectera donc sans doute qu'à la marge la fréquentation des stades et le succès économique de l'épreuve, mais signe qu'elle prend l'affaire au sérieux. La FIFA a aussi mis à jour dans la foire aux questions de son site internet, les FAQ, la réponse apportée au sujet, puis-je annuler mon achat de billets après avoir reçu la confirmation? La réponse a été catégorique, non. Ah ouais, ouais. Ah, tu peux plus. Ah, t'as acheté? Ah ouais. T'as acheté. Qu'est-ce que... Quoi que fassent les États-Unis entre maintenant et le mondial, voilà. T'es danois, t'as acheté un billet, eh ben tu viens. Voilà. Quoi? T'es groenlandais? T'es pareil. Tu... Voilà. Non, d'ailleurs, tu viens pas. Ça te fera les pieds, mais tu payes quand même. Tu touches, ah, je voulais pas la faire. Tu touches, tu payes. Bien sûr, j'avais le ref. T'as touché, tu payes. C'est du rap conscient. Faut avoir la ref, mais c'est une bonne ref. Attends, on va essayer de la retrouver. T'as touché, tu payes. Alors, t'as touché, tu payes. C'est pas une ref à la ferme Morandini. Hein. C'est un sketch. Je cherche. T'as touché. Tu achètes d'ailleurs. Tu achètes. Alors c'est où? YouTube, les Kaira. Ah, c'est là. Ah, c'est dans les Kaira.
Et nous?
C'est là. Ah ouais, c'est génial. Super ça. Non, j'ai adoré ce film, moi, les Kaira. Je l'ai vu deux ou trois fois, je crois. C'est pas un sketch, c'était dans le film.
Et nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier.
Ah, mamie.
Je t'emmerde, fils de pute.
Viens voir, viens là. Tu vas l'écouter. Bouge pas. Là, je te mets la chanson sur la prison. Parce que je vais aller en prison un jour, Inch'Allah. Hey, écoute le taras. Prends-le dans la main. Voilà, oh. T'as touché, t'achètes, je te préviens.
T'as touché, t'achètes. Le Kaira. King Julien me dit, c'est pas le macho. C'est pas le macho, c'est Kaira. T'as touché, t'achètes. C'est du rap conscient.
Hey, cheveux, viens là, t'as touché, t'achètes. Ça, c'est du rap conscient, t'aimes bien ou pas?
Et nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier.
On se la refait.
Je t'emmerde, fils de pute.
Et ça, ce qu'on vient de voir, c'est nous dimanche, puisque dimanche, il y a ça. Je vous le rappelle, un simplet de fou dimanche soir 20h, ici dans le studio à côté, avec Ava Mind qui me rejoint pour un simplet un peu particulier, puisqu'elle ne va pas me faire découvrir un jeu vidéo, elle va m'apprendre à mixer. Voilà, une carrière de DJ pour papy qui débute dimanche. Voilà. On a Ava, on a loué une table de mixage de fou, un truc qui fait la table du salon. Voilà. J'ai demandé à Joe des lumières, des fumigènes, du grand spectacle. Ça va être une dinguerie. Voilà. C'est cadeau. L'émission n'est pas sponsorisée. C'est tout pour ma pomme. Let's go. Ça va être énorme. Ah, on va rigoler. DJ Samemu. Budget. J'ai dit à Joe, budget illimité. Vas-y, fais péter quoi. Voilà. Ouais, c'est juste le côté. J'ai pas de danseur. Ouais, je pense que c'est un peu trop, je trouve. J'ai peur d'aller sur du cringe et du gênant, quoi, si je prends des danseurs, quoi. Un drag show, en vrai, je pourrais, ouais. Demande à Ponce de venir danser comme Ozzy Event. J'ai pas la ref. Il a dansé? Moi, j'aurais fait venir tes enfants, me dit Marie-Lyon. On rappelle que gosse. C'est gosse au Québec, ça veut dire couille, non? Hein? Les gosses, non? C'est ça? C'est gosse au Québec? Moi, j'aime pas dire gosse. J'aime pas trop le mot. Et je crois que ça veut dire couille aussi. Hein. Ouais, donc j'évite. Hein. Moi, j'aurais fait venir tes gosses, tu vois? Non, du coup. Hein. Tiens, je vais vous montrer mes gosses. Non, tu vois? C'est. Il y a des Québécois ici, hein, dans le stream. Donc, est-ce que tu vois une photo de mes gosses? Moi, j'ai 3 gosses.
Waouh,
ah ouais. Tu vois. Donc, voilà, c'est un mot que j'évite, du coup. Voilà. Donc, Marion disait, moi, j'aurais fait venir tes enfants, même hors caméra, c'est pas tous les jours qu'on a un père aux platines. Ah ouais, en vrai. Ouais, je les mettrais sur le stream, ouais. En vrai, ce serait trop mignon, ouais. Ouais. Il serait trop content d'être là. Mais après, moi, je les montre pas, les enfants. Hein, on les protège, ce sont des enfants, ils sont mineurs, ils n'ont pas choisi d'exposer ou pas leur image sur Internet. Et donc, moi, je ne les montre pas, quoi. Donc, j'aurais trop peur qu'ils passent une tête, quoi. Allez, un dernier article. La finale de la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dimanche. Tu serais ban de toute façon si c'était à l'écran. Ah non. Ah non, ça cède. Moi, j'ai vu plusieurs streamers, merci Godric Goudron, montrer des enfants en live, y compris leurs enfants. Ah, tu parles des couilles, du coup. Ah, tu parlais de montrer tes couilles. Ah, je l'avais pas. Ah oui. Ah oui, oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah non, non, je veux parler d'enfants. Ah non, de parler d'enfants. Ben, on a le droit de montrer des enfants sur Twitch. Hein. Moi, j'ai vu des streamers, je ne voudrais pas les citer, mais qui ont montré leurs enfants en live sur Twitch. Hein. Tu dis pas de bêtises. Tu parlais des enfants. Alors, c'est pas interdit. Hein. Ah oui, voilà. Je savais pas, my bad. Bah, si tu savais pas, pourquoi tu le dis? Okay. Allez. La CAN. Combat de Lyon pour un sacre, c'est dimanche, c'est la finale de la CAN. Le Maroc, pays hôte, affronte le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche à Rabat. Je suis nul en foot, mais je pense que ça intéresse sûrement beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas un passionné de foot, mais je respecte les passions des autres. Hop. Qu'est-ce qui se passe donc? Ils sont au rendez-vous, grand favori annoncé de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le Maroc, pays hôte, hein, pays organisateur, et le Sénégal ont assumé leur statut. 4 semaines après le lancement du tournoi, le pays hôte est le vainqueur de l'édition 2021. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, le Sénégal, ils ont gagné 2021. Quoi. Ne sont plus qu'à un match du sacre. Oh là là. Je te laisse ma place pour Lens-Rennes, Samu, si tu veux. Ah, Lens-Rennes, ça va être un sacré choc, non? C'est pas Lens qui est leader du championnat de Ligue 1 en ce moment? Et Rennes, ils sont genre 5e? Ouais. Eh, ça va être un match, ça, hein. T'imagines Lens champion de France cette année? Bon, le championnat n'est pas terminé, mais... Donc, finale inédite, ce dimanche 18 janvier. Je vois que c'est sur beIN Sport 1 et M6 à 20h. J'allais dire, putain, il y a un monde, je regarde le match. Ah, putain. Je vais tout de suite arrêter de parler de ce match qui est... une volonté d'empêcher les gens de regarder mon Samplay de dimanche à 20h, comme par hasard. Comme par hasard. Hein. Hein. Comme par hasard, le match est à 20h. L'horaire de Samplay. On vous voit, les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Stop. Allez, fin du stream. Hors de question que je parle de cette concurrence déloyale. Non, c'est marrant. Bon, du coup, en vrai, j'aurais pas été en stream, j'aurais regardé. Donc à 20h, qui s'annonce cette finale rugissante à plus d'un titre, dit l'Humanité. Avec d'un côté les Lions de l'Atlas et leur star Achraf Hakimi, Ballon d'Or africain 2025. Donc là, Lions de l'Atlas, si je dis pas de bêtises, sont les Marocains. Oui, l'Atlas. Bah oui, l'Atlas au Maroc, bien sûr. Qui courent après leur trophée depuis une unique victoire en 76. D'accord, donc le Maroc a gagné la CAN en 76 et une finale perdue en 2004, c'était contre la Tunisie. Ouais. Et le Maroc a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde de football, si je dis pas de bêtises. Hein. De l'autre, on a donc le Sénégal, les Lions de la Teranga et leur vedette Sadio Mané. Ah, les Lions. Les deux équipes, leur surnom c'est les Lions. Combat de Lions, ok, je viens de comprendre. Les Lions de l'Atlas contre les Lions de la Teranga, ok. Ben, il était temps. Okay. Et Sadio Mané, l'un des meilleurs attaquants du monde, lauréat il y a 4 ans et en finale lors de 3 des 4 dernières éditions. Ah ouais. Ils sont chauds quand même. Hein. Ah ouais. Sur le papier, c'est qui les... Si. Ouais, j'ai des grosses attaches avec le Maroc, moi, de Coldfire, ouais. Sur le papier, c'est qui est favori, là? Alors, il y a le pays organisateur d'un côté, mais il y a quand même le Sénégal qui a l'air incroyable, quoi. Maroc à domicile favori, me dites 7-7. Maroc favori, domicile en plus. Maroc, Maroc. Ah, vous dites le Maroc à fond. Ah, ok. Vous êtes quand même à fond Maroc, hein. Ok. La folie s'est emparée du pays au terme de la séance au tir au but, parce que le Maroc s'est qualifié à l'issue des tirs au but pour la finale, remportée face au Nigeria. 4 tirs à 2. Du coup, le gardien de but marocain est devenu un héros national, hein. Mercredi 14 janvier au stade de Prince Moulay Abdellah de Rabat, donne une idée de la tension, de l'attente qui règne dans tout le royaume. Ah, pour le Maroc, pour les Marocains, une victoire de la CAN, ce serait un truc évidemment incroyable, quoi. Dans l'obligation de remporter sa CAN à domicile, un titre qui lui échappe depuis 50 ans, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde 2022 est première nation africaine au classement mondial de la FIFA. 11e. Tout autre résultat que la victoire sera perçue comme une défaite, a dit le sélectionneur marocain. Bono, oui, c'est son surnom, ouais. Alors, Heitor Foril me dit que Bono, donc c'est le surnom du gardien, était déjà une légende marocaine. J'ai vu un très joli papier sur ce classement qui est très. Sur ce gardien qui est très modeste, qui ne se met pas en avant, qui est très apprécié. Très critiqué depuis le début de l'épreuve pour le jeu proposé, le technicien marocain, le sélectionneur marocain, est celui sur lequel pèse une énorme pression et est peut-être en train de réussir son pari. Après avoir balbutié son football lors du premier tour, tout en finissant premier de son groupe, après avoir remporté son 8e de finale au forceps contre la Tanzanie 1-0, son équipe est enfin rentrée dans son tournoi en quart face au Cameroun 2-0, imposant un pressing et un contre-pressing de tous les instants. Pressing ? Mais qu'est-ce que vient faire l'histoire de nettoyage de vêtements dans le football? Je suis pas spécialiste, mais c'est par rapport au maillot. C'est parce qu'ils passent au pressing. Et le contre-pressing, c'est quand le vêtement n'est pas assez propre et on le refait passer. C'est ça, hein? Ok. Je savais pas la ref. Donc, moi je suis pas spécialiste de football. Donc, imposant un pressing et un contre-pressing de tous les instants, donc du coup, je comprends que les Marocains avaient un très beau maillot. Les Marocains ont empêché les quintuples vainqueurs de l'épreuve et développé leur jeu. Bis repetita en demi-finale, où les joueurs de Walid Regragui ont poursuivi leur harcèlement face au Nigeria, meilleure attaque du tournoi, soudainement incapable de trouver le chemin défilé pour la première fois. Ah, moi j'avais très peur pour le Maroc, là, pour le demi. Hein. Système qui fonctionne à la perfection, mais constitue une débauche d'énergie qui, ajoutée à la demi-heure supplémentaire de prolongation face au Nigeria, pourrait peser dans les jambes contre le Sénégal. En mission, les Lions de l'Atlas sont portés par Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition, 5 réalisations. Leur capitaine, Achraf Hakimi. Hakimi jouait où ? Il joue où en club, Hakimi ? Pardon. Qui retrouve peu à peu son niveau après. Il est pas au PSG. Oui, il est au PSG, hein, c'est ça, hein ? On est d'accord. J'avais peur de dire une bêtise. Qui retrouve peu à peu son niveau après 2 mois sans jouer. En 8e, après un coup franc qui s'est écrasé sur la barre transversale tanzanienne, le latéral du PSG a offert une passe décisive à Brahim Diaz pour débloquer la situation. C'est intéressant. T'as les forces en présence. Pas mal le petit article. Donc vous dites plutôt favori le Maroc. Bon, après, c'est un match de foot. Hein. Tout peut se passer. Au niveau cardio, Hakimi, les Marocains sont quand même impressionnants, me dit Jack Whistler. Meilleur latéral droit du monde, Hakimi, me dit Xabibi. Ah, donc le pressing. Clément Coquin m'explique le terme technique du pressing tout à l'heure. Un maillot bien repassé, ça donne de l'aérodynamisme et tu cours plus vite. Ok. C'est ça le pressing en fait ? Ok. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Ah, ok. Ah, bah, si j'aime le prochain comme ça. Ok. Ah, bah, le prochain match de foot que je regarderai avec des gens, parce que parfois je me retrouve devant un match de foot, je pourrais un peu faire mon spécialiste en disant. Leurs maillots ont l'air super bien repassés. C'est comme un sacré pressing. Ça passe, non ? Comme phrase. Ça va faire le spécialiste, quoi. Content. Grâce à vous, j'apprends plein de trucs. Merci Patrick Goudron pour l'abonnement Faire la Commune. Merci Ekichi. Merci Luluzark. Merci Koviak. Merci Ambiello. Merci aussi à Pandarou qui vient d'écrire dans le chat premier degré. Mais en fait, Sam, il te troll. Merci de me tenir informé, c'est gentil. Merci beaucoup, parce que, vous savez, moi, je suis assez âgé, hein, assez crédule. Donc merci beaucoup de me préciser cette info. Les amis, je vous retrouve à 2h, 14h en direct. Eh oui, les petits plats dans les grands. Du Grand Palais à Paris pour un stream sur les 200 ans du Figaro. 8 invités qui vont nous parler de l'histoire du Figaro, de l'histoire de France. Ça va être incroyable. Une super production avec Joe. En total, on est 7, je crois, dans l'équipe technique de stream. On est 7. 2 caméras, des micros, en veux-tu, en voilà. Ouais. Eh ouais. Super production. Sachant qu'il y a du monde, il y a 60 000 personnes en 3 jours qui viennent voir l'exposition là. Et on a donc on a 7 et on a une équipe, de gens du Figaro autour de nous pour nous permettre d'avancer dans l'expo. Il y a plein de gens qui vont essayer de voir l'expo et nous on va passer devant avec 7 personnes, avec 2 caméras, avec plein d'invités et on va empêcher les gens de regarder l'expo. Le jour où il y aura le plus de visiteurs, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Merci Sulivage, merci pour le 7e mois. Point d'exclamation. Tiens, je vous mets la petite promo et je vous mets du coup le hashtag collaboration commerciale. Point d'exclamation Figaro dans le chat avec une promo de fou qui va pas durer. Hein. 2 euros par mois d'abonnement pendant. C'est énorme, pendant près de 4 ans si vous le souhaitez, puisque vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez. Point d'exclamation Figaro, la promo est complètement folle. Ouais. Un journal ça coûte 3-4 euros et là vous avez un abonnement à 2 euros pour un mois, moi qui vous incite à lire les journaux, idéalement en lire plusieurs. Voilà, si celui-ci vous intéresse, si la ligne éditoriale du Figaro vous convient, n'hésitez pas. Point d'exclamation Figaro, j'ai pas épinglé le bon. Putain, j'ai épinglé mon projet pour 2027. Rien ne va, rien ne va. Quand je vous dis que je suis vieux, rien ne va, rien ne va. Et j'ai un deuxième stream là. Et ce soir, soi-disant, je vais faire du gaming alors que demain matin, il y a une revue de presse. Mais rien ne va, mais putain, mais n'importe quoi. Merci les amis. Allez, on fait un raid. Vous voyez, c'est à cause du pressing. C'est demain matin ? Alors, le Figaro, cet après-midi. Mais tu as raison, Original Pimouche, la revue de presse, c'est demain matin. Pourquoi ? Parce que la revue de presse des bonnes nouvelles, le SAM dit des bonnes nouvelles, c'est normalement le samedi après-midi. Mais là, je la fais demain matin, parce que demain après-midi, j'emmène mes deux petits à deux anniversaires. Voilà, deux petits copains. Voilà, donc, hop, ça, je vais sillonner Paris en métro. Et donc, du coup, ça veut dire que si je stream gaming ce soir, il faut que... Après, je lis les journaux et voilà. Mais bon, bah ça, on va faire ça. Hein. Il n'y a pas de souci. On donne. Hein. Il faut. Hein. Qui est en live là ? Mr. Gotaga est en live. Je regarde. Oh, il y a mon ami là. Je vois des gens que j'aime bien aussi là. On regarde un petit peu. Je regarde tous les gens qui sont en live. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Attends. Attends. Comment ça se fait ? Attendez. Les amis, les amateurs de jeux vidéo, Silence on joue. C'est pas un format porté par un journaliste de Libération sur le jeu vidéo, ça ? Silence on joue. C'est pas une histoire comme ça ? Oh, il vient de cut ! Merde. Bon, il était en live, il y avait Libération FR en live avec un épisode de Silence on joue et sous mes yeux, il vient de cut là. Dommage. Bon, bah, en fait, ça aurait été un super. Là, voilà, Libération. Bon, tant pis. Ok, dommage, ça aurait pu être sympa. Je voyais que 12 viewers, tu vois, j'aurais bien fait un raid là. Ok. Bon, j'ai bien fait de pas raid parce que du coup, c'était la fin. mais je sais pas, c'était sûrement un contenu de qualité. Bah moi sinon, je sais pas, moi j'ai vu qu'il y avait l'ami Katsop que j'aime beaucoup qui est en live, tu vois, c'était ma première intention, hein? Kalina, let's go. On va voir Katsop, elle est sur du Minecraft. C'est cool en vrai, hein? Pour une qualité, hein? Go blinder le Pokédex. Elle est dans le truc de Rayou là? C'est le Poké Rayou? Ah bah raison de plus, let's go. C'est parti. Eh ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Ça a l'air super cool hein, ce qu'il a organisé Ryu. J'ai rien compris, mais ça a l'air super. Les amis, à tout à l'heure 14h, à ce soir sans doute pour du gaming, à demain matin pour la revue de presse, à dimanche soir pour le sample avec Ava, mais c'est la folie. Prenez soin de vous, des bisous, à très vite. Merci pour tout et merci encore pour l'explication sur le pressing. Maintenant, grâce à vous, je ne suis plus un footix.